Radio Libertaire, donc émission spéciale consacrée à la Poste. On vous a parlé de ça tout à l'heure lors des jingles. Alors voilà, bah, je lance les micros. Salut tout le monde.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonsoir.
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 Allons-y.
Bah, tu étais parti, tu étais lancé.
Ah bah j'étais lancé, oui.
Alors, tu es habitué à faire les présentations.
Oui, j'ai habitué, on va faire des présentations.
Tu es au poste de commande.
Les présentations, eh bien, c'est évidemment une partie de l'équipe de la Pente du Carmel, enfin j'allais dire presque toute la Pente du Carmel.
Ah non, pas toutes.
Et puis bah, alors ils vont se présenter eux-mêmes.
Eh bien écoute, on peut le faire aussi. Donc,
vas-y.
Gérard Coste de Sud, voilà.
Ouais.
Spécificité, c'est bon, c'est ça.
Ah ouais, PTT,
voilà,
ouais.
Voilà, donc j'ai bon. Et puis ensuite Nicolas Galépides de Sud.
Aussi,
voilà, donc comme c'est un peu le syndicat qui est fer de lance dans la lutte contre la privatisation, enfin la non vraie fausse privatisation, on ne sait plus trop.
C'est un gros mot,
un peu privatisation, c'est vrai. Donc voilà, donc c'est à vous qu'on donne le crachoir une fois de plus à Radio Libertaire pour qu'on en sache un peu plus. Voilà.
Juste pour rappeler que ça sera une antenne ouverte, on prendra les appels des auditeurs qui auront la bienveillance, assez de bienveillance pour nous appeler et peut-être pour poser les questions qui les intéresseront. Mm-hmm. On va essayer de suivre un fil assez tranquille pour parler donc de la Poste, les évolutions depuis les années qu'on connaît. La mission de service public aujourd'hui, comment elle a évolué également, et on partira après sur un petit exposé de la situation actuelle, ce qui est en train de se passer, et on croit savoir qu'il y a une actualité brûlante à ce sujet-là. Donc, on va commencer par le début, hein, l'évolution de la Poste.
Alors, qui est chaud ? Pendant qu'on ouvre les bouteilles.
Quand on ouvre les bouteilles, bien évidemment.
Il faut vous dire qu'en même temps, il est en train de manger. Donc,
c'est l'heure.
C'est l'heure.
Et puis, alors, on est vraiment dans l'actualité, puisque je crois qu'il se passait quelque chose à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut avoir des informations plus précises sur ce qui se passait en ce moment à l'Assemblée nationale avant de commencer réellement l'entraînement?
Moi, j'ai appris que Besancenot faisait de l'escalade.
Oui, ça, on s'en fout.
Donc,
il s'est cassé le doigt. C'est pas un manuel, ce garçon.
Mais à part ça.
Mis à part ça, c'est aujourd'hui normalement à l'Assemblée nationale commence la discussion du projet de loi donc qui a déjà été adopté par le sénateur, enfin par les sénateurs, une majorité de sénateurs de droite et du centre. Et aujourd'hui, le projet, après quelques petits toilettages pour enlever un petit peu tout ce qui a pu être acquis au Sénat, enfin le peu de choses qui ont pu être acquises, arrive à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, il y a eu une action de rue cet après-midi. Avec Solidaires, Sud PTT, des postiers du 92, etc. Avec une petite escalade de statues sur la façade de l'Assemblée nationale où on a habillé une statue avec un costume de postier. Et puis le soir, le comité national est venu aussi pour remettre les procès-verbaux de la fameuse votation là qui a eu lieu et où on n'a pas pu rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Qui pourtant promet le référendum, la loi organique et compagnie en juin. Donc, voilà. Donc là, on n'a pas pu. Donc voilà, on a bu des coups de vin chaud dans le froid et puis on est là. Maintenant,
j'ai faim. Très bien, ça tombe bien. C'est fait. Donc, pour lancer le début.
Juste une chose. Pour finir, au-delà de cette action, c'est les députés sont restés donc à l'intérieur. Mmh. Ils vont fortement débattre, amender, discuter, puis finalement ils vont voter et ils voteront la loi de transformation du statut de l'entreprise en société anonyme, qui n'est pas une privatisation. D'ailleurs, le capital devrait être ouvert à partir, le temps qu'ils passent les décrets, fin du premier trimestre 2010, vers le mois de mars, début
D'accord.
mars.
Donc, c'est pas une privatisation, mais on ouvre le capital.
C'est pas une privatisation, donc on forme un capital, on le divise en plusieurs actions, et ces actions, on les met sur le marché qui sera forcément public, parce qu'il n'y a pas de marché privé,
c'est
chacun connaît ça.
Donc, c'est un peu comme EDF, quoi, ça ne sera pas privatisé.
Ça
n'existe pas.
Une entreprise.
D'accord. Eh bien, puisqu'on en parle, à moins que je sorte complètement de la ligne, le changement de statut, c'était une obligation européenne ou pas, tout ça?
Non, pas du tout. En fait, c'est et c'est pas une obligation européenne. C'est-à-dire que la Commission européenne a tout fait pour que la Poste change de statut. Je veux pas être trop technique, mais il faut savoir que quand on est une grosse entreprise publique comme la Poste et qu'on emprunte sur les marchés financiers, ils sont pas fous. Ils se disent, celle-là, elle a la garantie de l'État derrière elle. Donc, je lui prête de l'oseille pas cher. Donc, on a ce qu'on appelle une bonne note pour emprunter de l'argent. Donc, ça, ça déplaît foncièrement à la Commission européenne qui dit, mais le concurrent qui vient se pointer en France, qui veut emprunter, on lui dit, toi, t'es un petit jeune, t'es à risque, je vais te prêter avec un taux très fort.
Et, donc, c'est loi de l'offre et la demande.
Exactement. Et donc, elle a attaqué la Poste, et l'attaque est toujours pendante, hein, en disant, vous avez un avantage illégitime parce que vous avez la garantie de l'État. Alors, on vous demande pas de changer de statut, mais si vous changez de statut, on vous lâche la grappe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, début janvier 2010, la Commission européenne va faire une petite bafouille en disant « ça y est, vous êtes une ESTA, je vous lâche ». Donc, c'est pas obligatoire, mais on fait tout pour.
Enfin, on fait. C'est la direction et le gouvernement qui fait tout pour. Quand c'est Dion, ça concerne pas les...
C'est, on va pas se raconter de ça, là. C'est de l'idéologie pure. Oui. C'est vraiment un verrou à faire sauter. Le service public à la française, c'est la Poste. Hein, vraiment partout, dans les villages, c'est vraiment l'image.
Bah, c'est le premier service public, la Poste.
Absolument.
Rappelons-le.
De proximité.
Mais ça les démangeait ou quoi? Parce que j'ai l'impression que Sarkozy fait ça là où ça gratte et qu'il voulait se faire la Poste. Hein. Non, c'est un contenu idéologique qui préexiste depuis longtemps ou ouais. toi qui es syndicaliste, tu l'as perçu pendant les années qui précédaient l'ère sarkozyenne?
On a perçu, alors bon, Gérard pourra abonder dans mon sens, on va dire ça, on a perçu une véritable dégradation en fait sur les missions de service public, etc. Maintenant, sur l'histoire, honnêtement, hein, sur l'histoire du changement de statut, il faut se rappeler, alors si on fait un peu l'historique, on devait parler de ça au début de l'émission,
c'est parti.
La Poste était une administration avant les années 90. Le gouvernement socialiste de l'époque a inventé l'établissement public
rappelons-le.
À caractère industriel et commercial, donc sous les bons auspices de Christian, Pierret, Quillès, tout ça, la loi Quillès et compagnie, qui devait donner un petit peu les moyens à une entreprise publique de voler de ses propres ailes et de peser moins sur la collectivité. Bon, c'était un petit peu sur le papier. Donc, à l'époque, France Télécom, La Poste, je vous fais pas de dessin. Le modèle a duré 20 ans et il faut dire qu'en 20 ans, La Poste a évidemment volé de ses propres ailes, qu'elle a assumé des charges considérables de services publics à la place de la collectivité. Donc, ça veut dire ça de moins à payer sur l'impôt. Donc, c'est pas si mal. Mais dans le même temps, il y a eu un vrai prix à payer, à savoir en emploi, à savoir sur une dégradation des conditions de travail, des doubles statuts. Enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc, voilà un petit peu d'où on vient. Maintenant, personnellement, moi, l'annonce du changement de statut en juillet 2008, ça a été une surprise, hein, franchement.
C'était une surprise.
Oui.
En 2000, oui. Enfin, sous Sarkozy.
Je vais juste compléter deux, trois trucs.
Vas-y.
Sur, moi, je suis très, très vieux, donc je suis rentré à la Poste il y a très, très, très longtemps.
C'est dommage qu'il n'y ait pas l'image.
Non, mais il tient debout, quand même.
Mais je me rappelle que, un des motifs de la grande grève des PTT de 1974 était sur le mot d'ordre qui était Thomson n'aurait pas les télécoms et que le gouvernement de l'époque, gouvernement Giscard, avait comme projet de dire maintenant que les télécoms ont réussi ce grand défi d'installer le réseau et de raccorder les foyers de l'Hexagone à un réseau téléphonique moderne, performant, il faudrait voir à séparer la Poste et les télécoms. Et donc, si on date, on peut s'en remonter plus loin. 74, il y a déjà des projets de séparation de la Poste et des télécoms. Donc, on est sous le gouvernement Giscard. Ça se calme un peu, très peu, sous le premier gouvernement Mitterrand avec l'alternance. Ça revient très, très vite, dès la fin des années 80. Donc, et là, je ne reprends pas, c'est Nicolas a déroulé le reste du film à partir de la loi qu'il laisse. De séparation, mais on voit donc qu'on a un projet. Ce qu'il faudrait essayer de comprendre, c'est quelle est la logique financière ou la logique économique de l'affaire. Une des clés, je pense, pour comprendre cette affaire, et qui peut balayer déjà une idée reçue, c'est les services publics, c'est à la charge de la collectivité, c'est payé par le budget de l'État, etc. Bon, première chose à rappeler
Alors ça, c'est un argument qui est resservi très souvent, etc. Les services publics coûtent cher.
Les infrastructures, c'est effectivement le bien de la collectivité. D'ailleurs, c'est ça aujourd'hui qu'on va vendre, le bien de la collectivité. Le fonctionnement, les équipements, la recherche, les frais de fonctionnement de personnel, à l'époque où c'était les PTT, c'est un budget annexe.
Déjà.
Qui est voté par les parlementaires. Et ça consiste en quoi, par exemple, pour la Poste, le budget annexe ? C'est dire à combien on va fixer le prix du timbre. Voilà. Et la Poste finance ses activités et paye les salaires sur l'argent qu'elle génère, sur le trafic qu'elle fait, et non pas sur l'impôt. Et à l'époque, y compris des PTT, et qu'on a réussi à développer ce grand virage au niveau des télécommunications, non seulement l'activité de la Poste est légèrement déficitaire, et elle est compensée parce que l'activité télécom est très bénéficiaire, mais y compris à l'époque, les recettes des télécoms abondent le budget de l'État, c'est-à-dire reversent à l'État. À un moment, cette affaire-là, ça veut dire qu'il y a du fric à se faire.
C'était peut-être sa grande erreur, c'est de montrer qu'elle était rentable. Donc il y a des requins là qui ont dû sentir venir les flots de sang et d'argent. Pas de micro, François.
Mais en fait, comme le disait Gérard, c'est en 80 que cette histoire de séparation budgétaire est mise en place. Donc c'est pas loin après l'année 74 dont tu parles. Et pour faire une petite précision sur l'année 90 et le passage de la loi Quilès mise en place en 91, là c'est cette même loi qui donc met en place cet établissement public muni d'un comptable et qui sépare de la grande entreprise PTT les télécoms de la partie purement postale qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment effectivement un mouvement de fond
ça a été pour préciser ça.
C'est pour ça, je pense, que par rapport à ce que disait Nicolas, surpris, pas surpris, c'est une question beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est que ça ne nous tombe pas dessus du jour au lendemain on ne découvre pas. On sent un mouvement qui est à l'œuvre avec des réticences.
Surtout au niveau de la population, quand on regarde les sondages, que la 70%, je crois, c'est ça, ou même plus, des Français. Je ne parle même pas de la votation qui a été faite récemment, on en reparlera après, mais plus de 70% des Français sont attachés à ce service public et à la présence des bureaux de poste dans leur petit village.
Mais si vous voyez 74-2009, vous me direz quand même que cette affaire a pris énormément de temps. Elle n'a pas pris du temps parce qu'ils n'étaient pas pressés. Elle a pris du temps parce qu'il y avait des réticences. Il y a eu des difficultés aussi de leur côté. Il y a eu des moments où les affaires marchaient peut-être
pas suffisamment pour
moins bien. Il y a eu des impératifs politiques, notamment en matière d'emploi public, de nécessité de développer. Bon, il y a plusieurs politiques publiques qui ont été mises en œuvre et qui ont expliqué. Mais le fond de l'affaire, c'est à la fois les réticences au niveau du personnel et un attachement très fort pendant très longtemps. Et encore maintenant pour la Poste, d'après ce qu'on a pu voir dans les campagnes qui se sont développées toute cette année, un attachement très fort aux citoyens. Donc le risque d'un prix politique et social qui serait lourd à payer. Bon, on a un gouvernement qui, là, très, très manifestement, va très vite et attaque tous azimuts. Et le fait qu'il attaque tous azimuts, il se dit l'ampleur et la portée des attaques est telle que tout le monde étant attaqué...
Pour ne pas se regrouper.
Un front très large, en fait.
Bon, on pourra rentrer dans d'autres considérations d'ordre syndical. Mais enfin, tout ça pour dire qu'on n'est pas surpris de ce qui arrive. Par contre, le film n'était pas écrit. C'est-à-dire, on ne pouvait pas dire, c'est à tel moment qu'ils vont faire. C'est au moment où ils l'annoncent. Ils auraient pu l'annoncer 2 ans avant. Ils auraient pu ne pas l'annoncer du tout. Ils pourraient l'annoncer que dans 1 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an. C'est-à-dire que le rythme... À un moment, c'est eux qui l'ont mis.
Moi, ma surprise, quand je parle de ma surprise, c'est sur l'ineptie de ce qui est proposé, si tu veux. Jusqu'à aujourd'hui, on a vu qu'ils avaient sans vergogne privatisé, on va dire, ce qui rapportait. Donc, on a vu que sur les télécoms, il y a eu évidemment, alors on a appelé ça la bulle télécom, à la fin c'est quand même la collectivité qui a payé l'addition sur France Télécom. Il faut se rappeler qu'il y a eu 64 milliards d'euros de dettes à un moment, mm-hmm. qu'il y a eu une recapitalisation avec des fonds publics, qu'il y a eu un emprunt de fait avec des fonds publics, et qu'aujourd'hui c'est en train de se régler petit à petit, mais la collectivité a vraiment mis la main au porte-monnaie sur cette histoire. Le gaz, l'énergie, évidemment, c'est des secteurs qui ne peuvent que rapporter avec toute cette population qui est en captivité, etc., complètement captive. Maintenant, sur l'histoire, sur l'économie postale, il y a rien à gagner. Il y a quoi ? Il y a une petite banque, parce que je ne veux pas dire que c'est une grosse banque, il y a une banque qui a des perspectives de croissance modestes parce qu'elle ne faisait pas de crédit consommation et qu'elle ne faisait pas d'assurance et qu'elle va en faire. Bon, alors donc, c'est avec une espèce d'image qui vont nous faire un peu comme...
Oui, alors ils s'embêtent pas. On peut lire, par exemple, dans les bulletins internes ou les je sais pas comment on appelle ça, les magazines conseils de la Banque Postale.
La communication institutionnelle, voilà.
Donc, en 2 ans d'existence seulement, la Banque Postale est aujourd'hui l'un des principaux acteurs du marché bancaire avec plus de 29 millions de clients, dont près d'un tiers en tant que banque principale. Donc, ils essaient de nous faire croire qu'il y a 29 millions de clients qui ont débarqué depuis 2 ans.
Voilà.
C'est-à-dire que la Poste, avant, c'était rien. C'était 3-4 personnes. Et puis, depuis que la Banque Postale est arrivée, il y a énormément de clients qui ont rempli leur livret A.
Ça se bouscule.
Ah bah il y a eu un afflux de petites vieilles, c'est pas possible.
Ah oui, donc c'est grâce à la politique de la Banque Postale, c'est ça. Ils sont très forts.
Elle fait vieillir la population.
Oui. Ça se démontre très facilement, ça. Moi j'avais montré par A plus B, vraiment avec des courbes toutes bêtes, que service financier de la Poste à l'ancienne ou Banque Postale, la courbe de croissance est absolument régulière, elle est complètement classique. Et il y a eu évidemment un effet d'aubaine avec la crise, où les gens se sont plutôt retournés vers une banque qui n'avait pas eu le temps de faire trop de conneries. Les seules conneries qu'on a faites, c'est de perdre 75 millions d'euros chez Lehman, parce que bon, c'est stylé quand même, faut mettre un peu d'oseille en Amérique, comme tout le monde. Il y en a qui vont se faire soigner, il y en a qui mettent leur argent.
Et tu veux dire que Gérard n'est pas le Jérôme Kerviel de
la Poste. Il aurait bien voulu,
il aurait pu,
je pense. Moi, je pense que ça aurait été...
Mais il avait suffisamment d'envergure.
Il avait l'envergure, ça, sans problème.
Vraiment, quel embrouilleur.
Moi, je me serais fait gauler.
Donc voilà, donc ça c'est la communication de la Banque Postale, c'est-à-dire on tire la couverture à nous. On parlera peut-être pas, je sais pas, dans le fil que j'ai pas encore sous les yeux, parce que j'ai moi aussi pas perdu, mais non, mais c'est pas grave, j'ai tendance à pas les respecter, donc vaut mieux pas que j'ai sous les yeux. Je serais peut-être plus fidèle en le voyant pas quand.
Les 60 petits millions chez Lehman, il faut bien se dire que les services financiers classiques avant la mise en place d'une filiale de ce qu'appelons la Banque Postale, cette chose était impossible à faire. Donc 60 petits millions, c'est comme tu disais.
En euros, on en parle en euros.
C'est parce qu'ils n'existent que depuis 2 ans et qu'ils ne peuvent pas faire complètement ce qu'ils veulent, sinon ils auraient pu faire aussi bien que les autres.
Voire mieux.
C'est à relativiser avec les. Par exemple, l'intéressement, il y a eu un accord d'intéressement signé à la Poste. La distribution de l'intéressement, c'était 21 millions, en fait, pour 2008. Hein, c'était mignon. Et pour continuer un peu aussi là-dessus, puisqu'on fait un petit peu le passé, après on va parler un peu des conneries qui nous préparent. Il faut savoir que les services financiers de la Poste, avant 2000, les CCP, ce qu'on déposait sur nos comptes chèques postaux, étaient détenus par le Trésor public. C'est-à-dire que c'était pas placé sur les marchés n'importe où, c'était le Trésor public, l'État en fait, qui détenait ça et qui rémunérait la Poste entre 4,5 et 6,5 postaux. C'était vraiment une... On pourrait même dire, si on osait, une banque vénézuélienne. Vraiment une banque nationalisée complète, quoi. Et donc, évidemment, le modèle a été vite... On les a vu venir de très loin. Là, par contre, on n'a pas eu de surprise. En 2000, ils ont dit, on transfère ça petit à petit, puis on va placer ça sur les marchés. Et puis là, bon, voilà, aujourd'hui, on est sur une banque complètement d'exercice commun, comme toutes les autres, avec ses mêmes objectifs, quoi.
Alors, y compris, toujours dans le même ordre d'idée, là, on touche après à la notion et au sens du service public. C'est... Nicolas a raison.
Oui, j'ai raison.
La Poste, les CCCP, là, le machin soviétique.
Ah, tu disais ça, toi aussi.
Mais le petit livret A, il est rouge.
Comme les passeports.
Le livret A est jaune, il me semble.
Ah non, moi, j'en ai un de la caisse des comptes.
Ah, c'est ancien, alors. Ouais.
Comme la CFDT.
C'était comme la CFDT, ouais. Donc, voilà. Et ils ne rigolent pas. Les syndicalistes du Sud n'ont même pas rigolé.
Donc, ils étaient collectés, gérés par la Poste, qui ne gérait pas les fonds. Les fonds étaient gérés, c'est dit, par la collectivité, via la CDC et par le Trésor. La destination des fonds, on ne faisait pas de prêt à la consommation, machin, bidule, c'était pas bien. Ça servait à financer le logement social. Ça servait à financer les crédits des collectivités locales, des crédits d'équipement. Donc là,
d'utilité concrète pour le citoyen, pour la collectivité.
Oui, c'est la loi qui mettait ça en place. Hein. C'était pas ouvert,
c'était le sens, un des sens du service public. C'est l'argent collecté.
Ne parle pas à l'imparfait.
Donc c'était un des sens du service public. L'argent collecté, il y avait des garanties pour les déposants. Très, très faible rémunération, certes, mais...
Mes rémunérations. Non, parce que là, si on va jusqu'au bout, on avait fait une émission fleuve ici sur le livret A. C'est le seul produit financier qui n'a pas perdu un euro depuis 150 ans, voire un franc. C'est quelque chose qui a été croissant, constant. Il n'y a aucun truc qu'on peut montrer, CAC, les fluctuations, tout ce qu'on veut. C'est bon, c'est pas grand chose, mais c'est bon.
Y compris parce que ce n'était pas du tout introduit sur le marché.
En fait,
sur le fond, c'est cette affaire. Et la question, c'est que l'argent collecté, il n'allait pas faire du prêt à la consommation, il retournait pas au ménage. Il ne servait pas à faire du surendettement, notamment. Mais ça va venir, on va accéder.
Oui, c'est ce que j'ai vu, il y a des produits qui se préparent. Mais alors, on ne va pas parler du futur.
Et donc,
ça
servait à financer les collectivités, ça servait au financement public. Donc, la différence, on a commencé à introduire, alors c'est un truc qui dépasse largement la Poste. C'est un truc qui est beaucoup plus on va rentrer dans la notion de client. Vous avez droit à ceci, vous méritez cela. C'est pas normal que vous n'y ayez pas accès. Vous avez 40 banques qui vous consentent des prêts, mais il vous en faut une 41e. On ne cherchera pas la logique de cette affaire.
Il n'y en a pas.
Et donc, il est normal qu'on puisse vous faire. La bascule au niveau service public, c'est qu'effectivement, l'argent collecté pour la collectivité et les équipements collectifs à bas coût, à faible taux de rendement, vont aller basculer sur de la consommation individuelle à des taux usuraires. Donc là, on peut faire du fric. Mais les gens qui vont surendetter vont continuer à payer les impôts locaux sur les équipements qui devront être financés par les collectivités, qui ne trouvent plus aujourd'hui de financement, sauf sur des fonds toxiques. Sauf sur les emprunts toxiques. On a un certain nombre de collectivités qui sont à la limite de la faillite aujourd'hui.
On était sur le service public bancaire, là, est-ce qu'on pourrait parler maintenant plus précisément du service public postal et de cette partie un peu particulière qui concerne tout le monde aujourd'hui, de l'implantation territoriale ? Parce que ça a une importance, ça, aujourd'hui.
J'ai pas compris la question.
C'est l'implantation territoriale.
C'est-à-dire la présence des bureaux dans les...
Ça veut dire qu'il y a un bureau qui est ouvert de telle heure à telle heure, qui n'est pas trop loin des autres.
Je suis pas très...
Là aussi, il faut savoir de quoi on parle.
Ben, en fait, on a eu comment dirais-je ? Alors, la Poste, elle s'est implantée historiquement. Alors, c'est vraiment l'épicerie du village, la pâtisserie du coin, etc., etc., l'église, et puis le bureau de poste. Aujourd'hui, alors ils ont trouvé une combine extraordinaire en 2005, ils ont trouvé la notion du point de contact.
C'est
un truc absolument magnifique qui leur permet de faire une espèce de mélange entre...
Berlusconi connaît le point de contact.
Il a une dent contre ça quand même.
Un point de contact religieux, lui, il a vu surtout, je crois. Il a vu la Vierge. Bon. Je reviens sur ce truc-là. Donc, ils ont fait une espèce de melting pot dans lequel on ne fait aucune distinction entre un vrai bureau de poste de plein exercice, qu'on appelle, alors qui est un guichet, deux guichets ou trois guichets. Un bureau de poste de plein exercice, c'est un endroit où vous avez l'informatique de la poste et un guichetier qualifié. Ça veut dire qu'on peut faire entre 400 et 430 opérations, des mandats, etc.
C'est-à-dire quasiment tout ce que peut proposer la poste comme opération, il est capable de le faire.
Et voir plus de choses s'ils avaient un peu d'imagination et d'audace. Après, sur le même pied d'égalité dans cette catégorie point de contact, il y a une épicerie ou une agence postale communale qui toutes deux présentent une 15 à 20 opérations avec des opérations limitées sur les finances, je crois que c'est 300 euros par semaine, etc. Et donc tout le jeu, c'est de basculer le maximum de bureaux de poste de plein exercice dans cette catégorie agence postale ou relais postal communal. Aujourd'hui, il y a plus de 17 000 points de contact, et ce nombre reste constant, et justement les députés, à peu de risques, ont dit, on va le graver dans la loi, on va dire qu'il y aura 17 000 points de contact, et dans ces 17 000 points de contact, on assiste à des transformations. Donc les transformations, c'est APC ou relais poste commerçant. Aujourd'hui, on doit être à plus de 6 200 transformation. Donc il y a un volume de 17 000 points de contact dans lequel une grande part de part de gâteau augmente petit à petit. Ouais. Jusqu'où me direz-vous ? Vous ne m'avez pas posé la question, mais je la pose pour vous.
Tu as raison. On allait le faire. Mais...
Et ben, jusqu'au chiffre fatidique de 2788 bureaux, qui est le chiffre qui est recommandé et qui répond aux besoins de profit de la banque postale. Parce que derrière, ce qui compte, évidemment,
c'est le fric.
Voilà. Ce qui compte, c'est que dans un bureau de poste classique, vous avez 65 à 70% des opérations qui sont commanditées par la banque postale. Mm-hmm. Donc c'est le donneur d'ordre principal, on va dire. Et ce donneur d'ordre principal, comment dirais-je, conditionne la présence ou pas d'un bureau de poste. Donc elle dit, moi, banque postale, business, mais la surface financière de mes clients, c'est plutôt autour des villes, autour des bassins de vie économique.
Forcément. Hein.
J'ai repéré 3000 endroits où ça m'intéresse de vendre mes produits d'assurance et compagnie, mes cartes de crédit revolving, mes crédits, machin. Et puis dans les autres endroits, c'est morne pleine.
Oui, là où il y a les trois cons, les paysans, enfin tous les gens qui n'ont pas envie. Quoi,
pas simplement. Alors, pas simplement. Là où il y a des gens qui offrent une couverture financière pas suffisante. Il y a des paysans qui sont...
Oui, qui ont des moyens, mais...
Et s'ils en ont suffisamment avec un volume d'affaires suffisant, on doit pouvoir leur faire des trucs. Mmh. Et puis il y a des zones urbaines, périurbaines, suburbaines, où de toute façon ces gens-là, ils viennent que pour le RMI.
Oui, donc c'est la population dont voudrait se débarrasser la poste.
Donc on va garder un certain nombre de bureaux parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Mais
quand tu dis on parle bien de la direction et de la politique du...
Oui, on ne parle pas du service public.
D'accord, d'accord. Oui, parce que on, c'est un peu vague, donc il faut pas qu'il y ait de confusion.
Mais je compte sur toi pour à chaque fois dire qui est on. Ouais. Mais juste pour arriver à cette affaire-là, il y a une opération en interne qui est obligatoire. Jusqu'à présent, tous les bureaux de poste n'ont pas une distribution intégrée. Mais tous les bureaux de poste font du courrier. Mmh. Et donc, il faut à un moment... une banque ne fait pas de courrier. Une banque génère du courrier, mais elle ne fait pas de courrier, elle ne distribue pas de courrier, elle ne reçoit pas du courrier.
Elle ne trie pas, elle
n'a pas un service qui s'occupe du courrier. Donc à un moment, il faut identifier, pour une banque, qu'est-ce qui relève des activités bancaires et qu'est-ce qui ne relève pas des activités bancaires. Donc en interne, ça va se traduire par une première grande réforme après les années 2000, je ne sais plus, 2002, 2004... où on dit, on va séparer, on va identifier les différents grands métiers de la poste et on va faire une poste, en gros, par compartiment. Là, on sent très bien que l'idée, c'est, on commence à cloisonner, on fera de la vente par appartement, un petit peu comme on fait dans l'immobilier.
Non, mais il a parlé à la découpe.
Et donc,
à la découpe.
À un moment, l'idée de fond, c'est de dire, identifions les activités courriers, et séparons clairement des activités financières des bureaux de poste, y compris, ça va très très loin, c'est-à-dire créons des directions distinctes, séparons les métiers. Mmh. Et ça, quand on regarde, la réforme de 90 le porte déjà en germe, en créant ce qu'ils appellent la professionnalisation, c'est-à-dire qu'avant on avait du personnel qui avait une logique de grade, logique fonction publique, logique de grade. Vous n'êtes pas détenteur d'un emploi, vous êtes détenteur d'un grade qui vous donne une aptitude, une qualification pour tenir un certain nombre de fonctions, quelles que soient ces fonctions, et qui peuvent être dans n'importe quel type de métier. Vous pouvez être dans la distribution du courrier, dans l'acheminement du courrier, vous pouvez être derrière un guichet de bureau de poste, vous pouvez être derrière un service financier, vous pouvez passer de l'un à l'autre.
Ça
je
ne
sais pas si vous
France
rendez
Télécom.
Compte aujourd'hui. Aujourd'hui.
C'est la politique de France Télécom, on voit ce que ça a donné.
Non, mais ça, c'est
en passant par la fenêtre.
Ça, c'est ce qui existait dans la fonction publique.
C'est ça, oui.
Et donc, on voit aujourd'hui sur...
Tu faisais des vœux pour aller à droite à gauche. Oui. France Télécom, on fait les vœux pour toi.
C'est ça la différence.
Non, tu fais pas de vœux et tu vas chercher des emplois où, qui n'existent plus. Mais si vous voulez, pour un rêve de mobilité, de capacité de mobilité, d'adaptabilité, c'était un modèle social qui était relativement très élevé. Parce qu'effectivement, c'était sur la base des demandes des agents. Et en même temps, quand même, pour les directions, c'était... Tu as un grade qui dit que tu es capable de faire tel type de tenir tel type d'activité et faut que tu les tiennes.
Et ça marchait.
Ouais. Et le truc marchait parce qu'il y avait cette espèce de contrepartie. Et les gens pouvaient passer d'une filière à l'autre. Donc on a commencé par cloisonner les métiers à la poste en disant ce qui est du guichet, c'est du guichet, ce qui est du courrier, c'est du courrier. Et il n'y a plus de possibilité de passage de l'un à l'autre.
Créer des castes, diviser.
Sauf à la demande des directions.
Donc, ce qui lèche, d'accord.
Maintenant, d'un point de vue purement géographique, la Banque Postale vit, si j'ose dire, dans la Poste.
La filiale
du groupe est dans la Poste.
Dans les locaux.
Géographiquement, c'est-à-dire que géographiquement, rien ne permet de distinguer la Banque Postale de la Poste.
Il y a une partie du personnel qui est affecté Banque Postale. Dans des locaux de la Banque Postale, il y a une partie du personnel, la majeure partie du personnel qui travaille pour la Banque Postale n'est pas Banque Postale.
Ouais.
Et il y a une partie des cadres qui sont des deux.
D'accord.
D'où les casquettes.
Qui sont à la fois Banque Postale. Et alors, ce sont des cadres stratégiques.
Oui, je vois déjà.
On les appelle les bis.
Ah, c'est, ils sont bis.
Ouais. Les bis appartenants.
Mais bon, bis appartenants.
Oui. Laisse-moi imaginer seulement. Bien, d'accord.
Je voudrais qu'on revienne, excuse-moi, prof.
Doc.
Doc.
C'est le professeur.
C'est le professeur du fond d'usine, hein, comme à la technique.
Sur la façon dont.
Et ça en fait, c'est qui?
Il est au gouvernement hein, pour l'instant.
Sur la façon dont la Poste se retire des points de contact qu'elle a de plein droit, ces véritables agences, c'est quoi l'intérêt? Si tu pouvais un peu développer
l'intérêt, il va être tu vas très vite comprendre. Un guichet de la Poste avec l'électricité, le guichetier, l'informatique, la chasse d'eau, tout ce que tu veux, la lumière et tout, c'est 50 000 euros par an. Donc, évidemment, plus tu fermes de points de contact, moins tu as une addition lourde à payer. Et il faut savoir que cette addition, comme je le disais tout à l'heure, c'est la Banque Postale qui en paye 75%. Donc, tout l'intérêt, c'est ça. Après, là où ils ont été très forts aussi, c'est qu'ils ont réussi à, j'ai pas peur du mot, à manipuler de manière assez magnifique les élus. Parce que les élus locaux, c'est les premiers, logiquement, à devoir se battre là-dessus. Ce qui se passe, c'est que quand on installe une agence postale communale dans un village, on va en mécontenter une dizaine d'autres. Mais on s'en fout des 10 autres. C'est le village où il y a l'agence postale communale qui va compter. Donc après, on peut faire toute une série de sondages, de dire est-ce que vous êtes satisfait de votre truc et tout. Évidemment que l'élu du coin, il va pas se déjuger. Il a à la Poste qui paye à peu près 800-900 euros par mois à son agent communal qui tient le guichet de la Poste, enfin qui paye à la commune pour l'agent communal, hein, je dis bien. Il a un truc qui ouvre un petit peu à sa pogne, quoi, en fait, hein, pendant les heures d'ouverture de la mairie. Ça fait venir les gens, ça fait un peu de vie, et puis bon, c'est ça ou rien. Et en fait, la Poste a organisé, orchestré tout ça avec une communication que je dois reconnaître est assez redoutable. Sur un immense plan de communication vers les élus qui commence par ce qu'on appelle un diagnostic partagé. Alors ça, c'est extraordinaire.
À la sémantique, ils sont très forts.
On va voir
un maire, on lui met la main sur l'épaule, on lui dit, vous savez, il y a un problème, regardez, on va le regarder ensemble. Et on fait un diagnostic partagé, on dit, regardez, il n'y a personne dans ce bureau, patati patata, les horaires ne correspondent pas. Donc dès qu'on met le doigt dans cet engrenage, on met le doigt dans une machine qui va aboutir indubitablement à la fermeture du bureau. Et dans les argumentaires de la Poste, ils ont des petites fiches pour leur manager, ils m'ont dit, il est bien dit qu'il ne faut surtout pas mettre le préfet dans la boucle dès le début, parce qu'il y a quand même quelques petites lois, dont une loi d'un grand humanisme, un grand humaniste, Charles Pasqua pour pas le nommer, qui avait fait une loi sur les territoires, dans laquelle, quand un service public est menacé et que ça gueule, il y a un moratoire, c'est-à-dire que le préfet bloque les reculs qu'il peut y avoir. Alors, ça dure un certain temps, mais bon, ça peut-être ne dure qu'un temps, mais il y a quand même cette procédure. Et on voit bien dans les argumentaires de la Poste, ils disent bien, surtout, ne mettez pas le préfet au début dans la boucle et faites du maire un allié, un copain et tout. Donc voilà. Et ça se passe dans le cadre de, alors bon, je vous passe les détails, de commissions départementales de présence postale territoriale qui sont présidées dans lesquelles il y a des élus. Donc, il y a un vrai problème là. C'est que les élus sont parfaitement au courant de la décadence et de désengagement de la Poste. Il y a des rapports de maillage territoriaux. Il y a certaines réunions qui commencent où on dit, le préfet arrive et dit, attention, tout ce qu'il va se dire, c'est confidentiel. Bon, alors, il y a certains élus, ils sursautent. Moi, il y a des gens, ils sont venus me trouver, ils m'ont dit, moi, dès que le préfet a dit c'est confidentiel, j'ai dit, je vais tout de suite filer les documents au syndicat. Parce que,
c'est bien.
Mais non,
c'est
son
travail.
C'est un sursaut, quoi. Voilà.
Oui, mais premièrement, ils réagissent pas tous comme ça. Oui. Deuxièmement, faut pas croire que c'est un jeu simplement de très bonne communication. Et qu'on prend pour les élus, pour des imbéciles, et que ça marche.
Il y en a qui sont, si qui sont pour ce genre de politique.
Non, mais ça marche y compris parce que les manières d'y parvenir, c'est pas simplement du diagnostic partagé et de la connivence ou de la conviction. C'est qu'à un moment, il y a eu une forme de chantage aussi. C'est qu'on a vécu, on est tout le temps depuis 7-8 ans, mais ça ne cesse plus, sur des conflits locaux qui ne cessent pas à longueur d'année. Alors, après, on verra les difficultés à faire que ces conflits sortent du local. Mais, par exemple, sur les bureaux, notamment en province, les bureaux de campagne, ça a été de dire, le diagnostic partagé, c'est, nous, ça nous coûte de maintenir le bureau. Et donc, on va commencer à dire, le mercredi, on n'en a pas besoin. On va le fermer. On va réduire les plages horaires. On va fermer tel jour. On va fermer, et au bout d'un moment, les collègues le disaient. Le bureau, là, on a diminué les amplitudes horaires. On ferme 2-3 jours par semaine. Il savait. Il disait, dans 6 mois, le bureau, il est fermé. Et donc, la Poste, une fois qu'elle avait fermé
ce bureau,
l'offre de service, avait de plus en plus d'arguments vis-à-vis du maire pour dire, mais si vous voulez le maintenir...
On peut faire un pont à la con.
Ce sera... et nous, on peut vous aider.
Payer. Oui, voilà.
Nous, on peut vous aider. C'est pas qu'il va falloir payer. C'est... Et votre secrétaire de mairie est occupé combien de temps?
Oui, c'est faire un point à la con.
Et là où les maires n'ont pas forcément marché, il y a toujours la possibilité du commerçant.
Voilà. Et globalement, donc ça, le gain finalement qui survient de la perte d'un point de contact régi par la Poste, c'est donc 50 000. La vente des bureaux à l'occasion aussi.
Oh, il peut y avoir ça, mais ça intéresse pas grand monde.
Non, et puis beaucoup de bureaux étaient des locaux communaux sur lesquels ils payaient des loyers annuels qui étaient ridicules. Moi, j'ai tenu deux bureaux à la campagne dans les petits bureaux de Poste. C'était absolument ridicule ce qu'ils versaient comme loyer aux municipalités. Donc, au bout d'un moment, ils disent, on vous laisse les locaux, on arrête de vous filer les 250 balles annuelles qu'on vous file. mais il leur disait, mais maintenant, nous, soit on ferme, soit vous prenez. Mais en même temps, il y a un intérêt pour vous. Vous avez aussi une secrétaire de mairie que vous n'utilisez que 2 jours et demi par semaine. Donc, vous pouvez l'utiliser à plein temps. Vous avez là une complémentarité. Ça reste du service public. Et en plus, là, nous, on va vous donner des sous pour le faire. Donc, il y a une espèce de piège dans lequel un certain nombre de maires ne voyaient pas comment s'en sortir. Alors, certains trouvaient ça très bien, mais certains n'ont pas vu complètement comment se sortir de cette affaire-là. Et se sont retrouvés à accepter des choses, mais quasiment le couteau sous la gorge. Parce que, de toute façon, c'était ça ou la fermeture. C'était la fermeture.
C'est toujours moins. Vers moins de services, moins d'horaires.
Bien sûr.
C'est moins 10 ans.
Alors, plus cher aussi,
moins 10 ans.
Le gain, il est immédiat. C'est pas tellement sur les consommables et les immeubles. Les gains, ils sont essentiellement sur du personnel. Un guichetier qui fait 400 opérations ou qui est capable de faire 400 opérations, même s'il a que 10 clients dans la journée, c'est quand même un guichetier qu'on paye à plein temps. Ce type-là, ou cette fille-là,
il peut tourner en plus sur plusieurs bureaux. Il va faire 2 heures dans chaque bureau. Le problème, c'est que même ces gens-là, on les dégage.
Vous supprimez cet emploi-là. Attendez, depuis 2002, c'est 60 000 emplois qu'on sautait.
60 000. Il faut bien le retenir.
C'est le plus grand plan social de France. Hein.
Donc 60 000 emplois, vous voyez.
Depuis 62.
Depuis 2002, pardon. 62.
j'avais entendu 62.
2002.
Donc en fait, ça va effectivement très vite.
On va avoir la pause musicale, ce qui va nous permettre d'abord premièrement d'excuser Régis Blanchot qui n'a pas pu venir parce que je crois qu'il a la grippe ou un truc comme ça. Donc il est excusé.
Il est fatigué. Il y a un concert de Mylène Farmer.
D'accord. Ok. Il a bien fait de pas venir et il aura raté ça. Et puis ça va nous permettre.
En hommage à Régis, on va passer Mylène Farmer.
Pour le faire venir, non.
Pour qu'elle soit douce, c'est très fort.
Non,
ce qu'on va écouter, c'est
juste avant. Oui, juste avant que tu envoies la musique. On va rappeler que les auditeurs peuvent nous appeler au 43 71 89 40. Car ils peuvent participer s'ils ont des questions à poser.
Ils ne sont pas obligés.
Mais tu peux appeler si tu veux pour faire croire qu'on a des auditeurs. Et puis par la suite, on va aussi ouvrir les bouteilles. Voilà. Ah
oui. Voilà. La chanson qui va suivre, bon, n'y voyez pas une.
Essayez d'en mettre une assez longue.
Une petite. Un petit pied de nez, mais bon, dans les années 60, Pierre Perret avait fait une chanson qui s'appelle Les Postières. Eh bien oui, j'étais. Évidemment, on en a au moins rencontré une comme ça, même si elles ne sont plus comme ça maintenant.
Elles sont comme ça maintenant, tu vois.
La caméra peut se mettre sur la gueule de droite.
Des mannequins anorexiques. Ouais.
Voilà, c'est ça. Pierre Perret.
J'ai une manie singulière. Je tombe amoureux des postières, elles ont le sourire accueillant, des gardiens de maison de redressement. Elles ont un parfum bien à elles, tout dépend de ce qu'il y a dans leur gamelle, ses écouteurs sur le cigare, la mienne ressemble à un homard. Quand une postière vous dit qu'est-ce que c'est, vous faites comme Mésic, vous lui faites un baiser. Vous lui dites vos lèvres sont des fruits de saison, et ça tombe au poil, moi j'adore les citrons. Je vais au guichet des télégrammes, je lui dis bien le bonjour madame. Elle me dit
qu'est-ce que vous voulez.
Je dis simplement vous parler.
C'est pour Paris ou la province?
Paris seulement, rue Monsieur le Prince.
V'là une formule, écartez-vous. Il y en majuscule et grouillez-vous.
Quand une postière vous dit qu'est-ce que c'est, vous faites comme Mésic, vous lui faites un baiser. Vous lui dites quelle chance, vos points noirs sur le nez. Chérie, j'adore le caviar sur canapé. J'attends mon livret de caisse d'épargne. Elle tricote un passe-montagne. Elle a l'air digne d'un chameau qui vient d'avaler un yo-yo. Sa collègue lui dit, ma petite chatte,
je te dis que les dessous de nylon ça gratte. Moi j'en mets plus, y'a belle lurette hein. Même à nos âges, faut mieux être prête.
Quand une postière vous dit ouais, 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 vous faites comme Mésic, vous lui faites. Vous lui dites quelle chance, vos poils sur le menton. Chérie, j'adore le moisi sur les croutons. Je l'ai eu ce matin au téléphone, de sa douce voix de madone. Elle m'a dit
demandeur parler.
C'est de mon tendre, mon troublé. J'ai osé lui dire je vous aime, comme Antoine, Irène, Marie, Étienne. J'ai dit voulez-vous un mari. Elle a blanchi, verdi, rosi. Quand une postière vous dit qu'est-ce que c'est, vous faites comme Mésic, vous lui faites blé, blé, blé. Elle m'a dit pas de chance, j'ai déjà fait ma vie. Avec un cul de jeune, j'adore les raccourcis.
Voilà, j'espère que les camarades de Sud nous en voudront pas pour ça. Alors, j'ai appris quelque chose par le téléphone, parce que nos auditeurs sont absolument merveilleux. C'est en train de manger, là. Vous m'en laissez un peu, s'il vous plaît. C'est Nicole Croisy qui donne la réplique à Pierre Perret dans la chanson qui vient de passer là. Voilà, bon, on va continuer un petit peu cette pause musicale avec quelque chose de plus, on va dire, de plus... j'ose pas dire sérieux, non, mais c'est différent, c'est Juliette... l'étoile rouge, voilà.
Au bord de l'étoile rouge, il y a bien longtemps, je servais des canons de rouge aux potes à maman. Ça s'enivrait à la gloire du kir et des communards, rêvant du grand soir. Je me souviens de Vassiliev, parti en 17 à Kiev, donner vie au rêve. Pauvre Moudjik, qui autrefois possédait pas même tes mains, il ne te resta qu'un bras, au moins c'était le tien. Guérossignol, cerise et carmagnol, quel cœur et quelle lutte rechanteront ces luttes pour ressusciter les rouges du bar de l'étoile rouge. Que Pablo s'en alla bâtir l'avenir et les châteaux sur le Guadalquivir. Il tomba sous la mitraille en braillant à plein poitrail, ay Carmel, ay. Puis Anna chez Benito a fait changer le tempo. Oh bella ciao, ciao, ciao. L'hymne eut raison de l'idole, botte en l'air et née au sol. Mais toutes ces cabrioles rendirent Anna folle. En hommage à tous les rouges du bar de l'étoile rouge. Au bar de l'étoile rouge, reste plus que moi. Une vieille que les canons de rouge ne mettent plus en joie. Il y a toujours sur le mur écrit le cri des purs et durs, mais chacun s'en moque. Non, pas Saran, c'est du passé, me disent des clients pressés. Faut changer d'époque. Mais même si ce goût de goulag dans mon verre en cristal de Prague m'a tiré des pleurs, l'avenir est-il si radieux que l'on oublie celles et ceux qui l'ont rêvé meilleur. Anna, Pablo, Vassiliev, de là-haut, de tout. même tard restera.
Ah, c'est quelques arpèges du temps des cerises, voilà. Je vous rappelle que vous êtes toujours...
Farmer,
Non, bah non, ça sera tout à l'heure. À 1h du matin pour ceux qui veulent.
C'était Juliette Farmer, là.
C'était Juliette Farmer, voilà. Je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, émission spéciale Poste.
Et pseudo-privatisation, vraie-fausse privatisation.
Vraie-fausse privatisation.
Non. On va en parler.
On en parlera, animé par l'équipe de la Pente du Carmel, La Vue est magnifique, qu'on retrouve généralement, on nous retrouve généralement le lundi soir, mais enfin bon, ça commence à être connu.
Et, à 22h30.
À 22h30, voilà. Et ben voilà, je te laisse le crachoir, enfin à moins que tu finisses ton verre de rouge.
C'est plutôt François, parce que j'ai la bouche pleine.
Ah, d'accord. Je vais faire passer un mot de Lulu qui dit que en fait les auditeurs qui auront eu la bonne idée de trouver des bonnes questions pendant qu'on parle pourront appeler quand même. C'est quand même
direct,
une antenne ouverte.
Ouais, ils ont
on va
un
essayer
four.
De faire marcher l'insert téléphonique.
Ouais, parce que là, on a eu des appels, mais les auditeurs ne voulaient pas passer à l'antenne, je crois.
Ouais. Non, bah, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça. Ils réagissaient sur l'émission en donnant
pas
des indications. C'est vrai qu'on. On aura, je pense, l'occasion de répondre. À leur question un peu plus tard.
Alors, c'est intimidant.
Je voulais justement, parce que je sais que vous voulez passer à la suite, mais je voulais quand même demander à Gérard s'il veut bien, s'il peut nous rappeler, parce que comme c'est un ancien, il l'a dit, lui qui a fait deux guerres, avec lui d'ailleurs, est-ce qu'il peut nous rappeler, par exemple, tout ce dont nous avions droit de façon gratuite à la Poste, pas tout, mais des choses qui ont peut-être été oubliées, que maintenant bah, les gens payent sans s'apercevoir ou se rendre compte que c'était des services qui nous étaient avant dus.
Pour les jeunes, voilà. Par exemple.
Oui. Le timbre était gratuit.
Le timbre était gratuit.
Par exemple.
Non, est-ce vrai ? Je ne crois pas. Je n'en ai pas souvenir.
Ah non, mais...
En plus sérieusement.
Premièrement, je ne m'en rappelle pas. Deuxièmement, parce qu'on oublie très très vite... les choses auxquelles on avait droit naturellement et tout. Et puis troisièmement, je voudrais pas vous faire de peine.
Donc mais, par exemple,
alors bon, avant même la Poste, avant qu'on appelait le 118-218, qui s'appelait le 12, c'était gratos le 12.
C'était les renseignements.
Et les renseignements, alors il ne fallait pas se tromper, il y avait le 17, le 18, et les renseignements c'était le 12. Et,
17 aussi des fois.
C'était un service qui était gratuit, c'était pas un service payant et encore moins un service surfacturé.
À la Poste, il y avait les réexpéditions, toutes ces choses-là. Voilà. C'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui.
Le changement d'adresse, par exemple.
Au niveau des services financiers, nous avions, alors, même si ça pouvait faire beaucoup, notamment pour les gens qui avaient peu d'opérations, mais s'ils avaient peu d'opérations, ils avaient peu de relevés, ils avaient le relevé à chaque opération. Oui. Et le relevé à chaque opération était un truc gratuit. Alors là, on a fait en deux temps. Vous pouvez garder votre relevé à chaque opération si vous êtes un collectionneur de bouts de papier. Mais c'est maintenant payant. Donc on vous propose le relevé décadaire ou mensuel qui sera pas payant, quoique ça va commencer
sur
le relevé.
Et
alors, on avait par contre des frais de tenue de compte, moi je me rappelle pendant des années, qui sont restés à 5 francs, la frais de tenue
donc,
de compte.
Moins d'un euro
annuel.
Oui, mais moins d'un euro annuel.
Annuel.
Ça bat tous les records en termes. Je ne vois pas comment une concurrence pourrait faire baisser ces prix-là.
La loi du marché le fera.
C'est bien pour ça que la Banque Postale a de beaux jours de vrai, parce qu'elle a de la marge à faire.
Elle
est toujours la banque la moins chère.
En étant convaincu qu'on rattrape les plans.
Oui, parce que là, c'est à la limite de la concurrence déloyale. Ça ne va pas pouvoir durer longtemps.
Donc, c'est indécent ce que tu dis.
Tout à fait, monsieur. Ensuite, au niveau du courrier, bon, alors, vous faisiez vos ordres de réexpédition. C'était payant à la Poste.
C'était pas cher.
Non, mais
le changement
provisoire, c'était 6 mois, donc maximum. Mais vous partiez en vacances, vous pouviez. Vous pouviez vous démerder autrement avec la gardienne, avec le voisin, en disant tu me fais suivre le courrier.
Avec le digicode, c'est pas possible.
Il allait à la Poste.
Il allait. Il y avait des enveloppes.
Il avait des enveloppes
de réexpédition.
Gratos. Qui était mise à la disposition gratuite du public. Le seul service qui était payant, c'était si on chargeait la poste de réexpédier elle-même le courrier, c'est-à-dire le facteur faisait un travail supplémentaire. Quand votre courrier arrivait, il devait le mettre de côté, y arriver ou pas, ça dépend. Il devait le mettre de côté, faire lui-même la réexpédition, donc avec des étiquettes, machin. Ça, c'était payant, c'était pas excessif comme tarif. La réexpédition définitive durait un minimum un an. Le facteur, alors après, il y a les choses. Il y a les choses d'usage qu'on prenait sur soi de faire. Au bout d'un an, le service de réexpédition, il était fini. Bon, vous aviez une lettre qui arrivait pour le... Vous regardiez pas, il n'y avait plus le service de réexpédition, mais vous lui faisiez suivre quand même. Vous risquiez pas le conseil de discipline. Aujourd'hui, oui.
Oui, d'accord.
Pour signaler, parmi les services rendus, il y a eu un truc qui a un peu défrayé la chronique, c'est ce facteur du Limousin. Oui. Qui, sur sa tournée, continuait gratuitement d'amener...
Comme aujourd'hui, plein de facteurs font. Hein. Le journal,
les médicaments, le pain au petit vieux sur sa tournée, ou aux malades, ou aux gens qui ne pouvaient pas trop se déplacer, etc. Mais ça, c'était une pratique courante.
Ils se comportaient comme un être humain. Ce qui n'est pas acceptable par le capital, quoi.
Pour un facteur.
Si, c'est acceptable.
Si tu payes.
Surtout dans un service public.
Mais là, très sérieusement, la Poste songe à justement faire à monnayer ses menus services. C'est-à-dire que là, mais si on continue,
c'est vraiment beau. C'est
regarde aujourd'hui.
Ça me donne confiance, moi.
Regarde aujourd'hui, tu rentres dans un bureau de poste, va faire un recommandé au bureau de Paris.
J'ai déjà essayé.
Attends,
pas au vin, mais
tu fais tout le boulot. C'est-à-dire que tu viens, on te donne un carton
rempli. Démerde-toi.
Allez à l'automate. Tu vas à l'automate, tu pèses ta lettre, tu la payes, tu payes avec ta carte, tes pièces et tout, et tu reviens, il y a juste un coup de tampon à mettre. Donc il y a une espèce de dématérialisation, sauf que c'est toi qui te fais,
ouais, tu fais
la charge de travail, elle est transférée sur le client, l'usager, le cochon de payant, tout ce que tu veux l'appeler. Et donc là, on a un véritable problème parce que le bureau de poste n'est plus un lieu accueillant.
Juste pour illustrer par un exemple, c'est qu'à une certaine époque, quand on amenait un chèque au bureau de poste, on donnait le chèque au guichetier, il prenait le chèque, il remplissait tout ce qu'il y avait à remplir, et puis c'était terminé, il vous donnait le reçu, terminé. Maintenant, le chèque, on vous dit, c'est bien, vous prenez le papier, vous mettez le numéro, le compte, la personne, le blabla, tu fais de la paperasserie, et puis pendant ce temps-là, l'autre, il attend, ou il fait passer une autre personne, qui va donner un papier aussi, ou il va chercher, donc on leur a demandé d'en faire le moins possible, je pense.
Ce qui est une vraie connerie d'un point de vue de la clientèle, si je parle clientèle, ou de l'attrait que
l'usager.
Faire, parce qu'on était, hélas, je repasse encore au passé, la seule banque qui endossait les chèques tout de suite. C'est-à-dire que quand tu donnais, il n'y a pas une banque où tu arrives et où tu files ton chèque, et depuis 10 ans, c'est terminé, ça. Et il y a encore 10 ans, tu te pointais dans un bureau de poste, tu amenais ton chèque au guichet. Et le chèque était là. Bon, au niveau des délais, on est quand même parmi les plus rapides aussi pour les coller, pour les monter, pour les mettre en valeur, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours pu entretenir ou mettre en place. Et ça, c'était vraiment ce qu'on appelle un avantage concurrentiel, si on veut parler business un peu.
Si on voulait faire commercial, il y avait des arguments.
Ah ouais. Il y avait du répondant.
Peut-être trop. C'est peut-être ça le problème.
Non, mais bon, on a vraiment la philosophie de la Poste. Enfin, c'est un grand mot, je veux dire. On va parler de stratégie. La stratégie de la Poste aujourd'hui, le client n'est pas le bienvenu. C'est-à-dire, le client payant, celui qui va être intéressant, qui va faire des opérations intéressantes.
Acheter du merdier,
il n'y a pas de problème. Maintenant, et on en veut pour preuve à la loi postale, là, au Sénat, il y a un amendement qui est passé qui disait que. Chaque bureau de poste, alors je parle dans les points de contact, là, et pour le coup, ils ont dit bureau de poste, est obligé d'offrir un accès haut débit à Internet. Bon, on voit tout ce qui peut s'ouvrir derrière ça. Bon. Alors, on nous rebat les oreilles sur la réduction de la fracture numérique, etc. Ceux qui ont eu le malheur d'aller à Pôle emploi, on va rapidement comprendre le bonheur que c'est d'aller se mettre debout derrière un ordinateur, etc. D'aller jusqu'à la NPE ou jusqu'au Pôle emploi du coin. Là, dans chaque bureau de poste de plein exercice, il était possible d'avoir un poste internet, un poste informatique. Ça a été immédiatement rejeté. Alors, le président de la Poste a été entendu par la commission...
Comment s'appelle-t-il déjà, ce monsieur ?
Jean-Paul Bailly. Par la commission des finances de... la commission économique de l'Assemblée nationale. Et il a dit, c'est pas possible, on a autre chose à faire et tout, parce que la Poste ne doit plus être un lieu d'accueil. Et si vous mettez un point internet qui va rendre... évidemment des services. On n'est plus en 2001 à l'époque où il y avait une expérience qui était un peu merdique avec des Macs, c'était joli et tout, mais bon, on est à une époque où
ça marche, il y a du débit, il y a des installations qui fonctionnent et il y a un vrai service. Et les gens sont familiers de ce genre de truc. Là, il y avait vraiment un outil, pour le coup, une avancée, quelque chose qu'on peut pas nier. Et
ça rapporte pas d'argent.
Ça a été rejeté. Ça, non seulement, alors même, quand bien même on le faisait payer un petit peu, mais le problème, c'est que ça fait venir des gens qui n'ont rien à foutre au bureau de poste. Il faut circuler, on veut pas vous voir. Vous êtes des gens qui n'avaient pas un ordinateur chez vous, vous n'avez même pas les moyens de payer Internet, un ordinateur ou de payer un truc.
Il faut pas
venir chez nous. Non, il y a un problème.
Je pense qu'il y a autre chose, c'est que faire ça au moment où on dit Internet concurrence le courrier, faut penser dématérialisation du courrier, etc. Rentrer dans cette logique-là. Je vais faire un peu l'avocat du diable, mais ça aurait été à l'époque moderne dire, comme ça existait il y a 30 ans, tiens, il y a des cabines téléphoniques dans les bureaux de poste. Ça faisait une complémentarité avec...
Va des rétros, GG. Va des rétros. Là, vraiment... Attends, tu vas pas aller au bureau de poste pour envoyer un mail, franchement.
Voilà. Parce que sinon, on aurait pu reposer la question, tiens, c'est de la communication. Avec différents vecteurs de communication. Oui. Tiens, il y a un grand opérateur historique de télécommunications avec qui, par exemple, la Poste pourrait passer un partenariat et pourquoi pas, à terme, fusionner pour faire un grand...
C'est extraordinaire.
ça s'appellerait, par exemple, les PTT. Oui. Mais alors, je lance
rêve,
le truc, mais
on rêve.
Il faut déposer le nom.
Surtout que pour le coup, ce serait pas ringard.
Non, ça serait carrément moderne. Alors, on va essayer de lui demander... au Cerbère de la Porte, mais non, plutôt au maître des clés de suivre le fil de l'émission. Alors, où en sommes-nous à peu près là ? Est-ce qu'on peut un petit peu parler de ce qui se prépare ?
Non. On peut peut-être faire un point sur l'organisation, sur ce qu'il y a dans la Poste aujourd'hui.
Ah, les filiales.
On en a déjà un peu parlé. Comment tout ça s'est mis en place ? On a un peu vu comment le service public, bancaire et de courrier avait évolué. Comment on en est arrivé à la situation actuelle où tous les métiers sont tellement séparés qu'on peut plus passer de l'un à l'autre?
Tu peux nous faire peut-être nous expliquer comment est constitué ces filiales, comment sont faites. Enfin, juste nous donner les noms peut-être, et peut-être que Nicolas ou Gérard auront une réaction.
Sur les filiales,
il y a un bouton qu'il faut appuyer. Il y a ping.
Combien y a-t-il filiales dans la holding La Poste aujourd'hui?
Il n'y a pas une holding, il y en a trois déjà, même quatre avec l'immobilier. On doit être à peu près, on a dû passer le chiffre de 200. Alors il faut savoir que quand le président de la Poste actuel est arrivé un petit peu aux commandes, ils ont dit on va simplifier, rationaliser tout ça, puis en fait c'est devenu un vaste souk. Hein. En gros, on est sur une espèce d'architecture verticale. Alors à la radio, c'est pas évident, mais imaginons que ce que disait Gérard tout à l'heure, dans le pire de ces cauchemars qu'on essaye de spécialiser par métier, soit arrivé. Aujourd'hui, on se retrouve avec on se retrouve avec une colonne courrier dans laquelle on va avoir la direction du courrier de la Poste, les facteurs et tout. Et en face, son pendant qui s'appelle Sophie Poste, qui est la holding de tous les métiers un petit peu modernes jusqu'au plus archaïque, c'est-à-dire moderne. On va avoir la dématérialisation du courrier, toutes les entreprises qui vont... Asphéria, tous ces trucs-là. Donc vous imprimez chez vous, vous commandez, enfin, je veux dire, vous éditez chez vous du courrier, il est imprimé dans les centres d'impression, etc. Et quand je vais jusqu'au plus archaïque, c'est pas péjoratif du tout, ça va être Mediapost, c'est-à-dire les gens qui font la publicité non adressée. Ça, c'est côté courrier. Deuxième colonne, banque postale. Alors évidemment, là, c'est un modèle très particulier où on a une direction bancaire dans laquelle, qui est une société anonyme, dans laquelle il y a à peu près 2000 personnes, qui est donneuse d'ordre d'un groupement d'intérêts pour cette banque où il y a à peu près 50 000 personnes, c'est-à-dire les guichetiers dont on parlait tout à l'heure, les conseillers financiers, les gens qui travaillent dans les centres régionaux de services financiers, les informaticiens. Donc avec un modèle très très particulier où il y a un petit Monaco qui est la banque, dans laquelle les gens sont assez bien rémunérés, grosse majorité de cadres supérieurs, 3 000 euros d'intéressement annuel en moyenne par tête. Et puis de l'autre côté, c'est la galère. Donc c'est les centres financiers, les conseillers financiers.
Le personnel de la maison mère. Quoi.
Voilà. Et donc c'est assez particulier parce que pour le coup, c'est une filiale qui donne des ordres à sa maison mère. Et puis la troisième colonne, c'est le colis.
C'est original, effectivement, comme construction.
Direction du colis d'un côté, avec ce qu'on connaît, colis poste, qui est quand même le tiers de confiance, on va dire. Là-dessus, on est quand même assez confortable aujourd'hui, surtout avec l'économie numérique où je commande sur Internet, ça m'arrive et tout. Bon, vraiment, le tiers de confiance, c'est Codipost. Et en dessous, toute sa ribambelle de filiales qui est sous une holding qui s'appelle Géopost et dans laquelle on trouve aussi bien des filiales en France qu'à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, avec des désirs de croissance, des pulsions bizarres dans lesquelles on se retrouve avec une filiale en Afrique du Sud, on se demande bien pourquoi. Et puis des pulsions moins reluisantes, je dirais, sur les pays baltes. Alors ça, là, il y a, Courrier et Colis, ils sont très, très clients, ils veulent se développer en Roumanie, des trucs comme ça. Bon, alors, c'est vraiment pas vraiment...
c'est pas les pays aujourd'hui... baltes.
Non, non, mais baltes, je montre... La Baltique. Mmh. Non, donc, de la Baltique à la Roumanie, si tu veux. Donc, en pensant trouver des créneaux de croissance, en sachant que c'est des pays qui décollent quand même et qui ont déjà fort à faire avec leurs opérateurs nationaux. Donc, les parts de croissance que la Poste va aller chercher, aussi ridicule que ça puisse paraître, c'est sur des pays comme ça qui sont en croissance. Donc, on va aller chourer un peu dans l'économie de ces pays émergents, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais bon, qui sont en croissance.
Peut-être pour finir par délocaliser, hein, qui sait.
Et il y a une dernière partie.
Non.
C'est l'enseigne.
Ouais, mais l'enseigne, c'est particulier. L'enseigne, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors d'abord, l'enseigne, moi, je trouve que c'est un gros mot, parce que vraiment, on est ni chez Darty, ni chez Carrefour. Ils ont eu la saugrenue idée d'appeler la Poste grand public, c'est-à-dire le réseau des bureaux de poste, l'enseigne. En disant, ah, youpi, c'est l'enseigne, et voilà, et voilà. Donc, et quand même, tout à l'heure, on parlait des 17 000 points de contact avec, il reste quand même 10 800 ou 10 900 vrais bureaux de poste. En Europe, il n'y a que l'Italie et le Portugal et puis l'Espagne un petit peu qui ont gardé un petit peu la propriété de ces bureaux, en sachant qu'on vise carrément le modèle allemand où il y a des fermetures assez considérables. Et puis
là, c'est des points contact là partout.
Voilà, voilà. Les Suédois, les Anglais sont allés plus loin dans le modèle où il y a 14 000 points de contact, on va dire. Ils ont 500 bureaux. Par contre, un bureau de poste anglais, alors je sais pas si vous avez déjà vu, ça va être une épicerie, ça va être un truc comme ça, mais le mec, il a l'informatique, hein. Donc il a vraiment un... c'est comme la Française des Jeux en France.
Ouais. Mais alors qu'en est-il de du droit de, enfin je sais pas, de la sécurité des informations, etc. C'est-à-dire que dans votre village, l'épicier connaît l'état de vos comptes.
Non, il connaît pas l'état des comptes parce qu'en fait c'est des opérations un peu dépendantes. Par contre, enfin à ma connaissance, hein, j'espère qu'il a pas accès à la, comment dirais-je, au relevé, à ces machins-là et tout. Par contre, là où ça peut poser un problème, c'est si vous êtes dans les ennuis, vous avez une dette de 75 euros chez votre épicier, que vous venez tirer 150 euros chez l'épicier.
Il va servir, oui.
Il va dire, bon, bah, ça va, les affaires reprennent. Donc, là-dessus, il y a vraiment quelque chose qui. Alors, bon, c'est de l'ordre de l'anecdote, mais ça arrive. Et puis, bon, La Poste, c'est quand même, moi je suis très sérieux là-dessus, c'est le tiers de confiance. Il y a quand même, il n'y a pas grand monde qui vous demande vos papiers. Il y a des opérations qu'on fait au guichet de la Poste. Oui, il n'y a pas.
S'il y a du monde qui demande les papiers, mais pas dans la Poste.
J'en connais dans la rue, moi.
Oui, au Pôle emploi aussi.
Malheureusement, ça gagne à la Poste.
Non, mais bon, il y a vraiment un modèle. Donc voilà, en gros, l'architecture de la boîte, c'est ça.
Donc voilà, ok. Mais donc tu l'as bien vendu, mais je dois acheter quoi en premier, par exemple?
Là, alors moi, si j'étais à ta place et que j'avais de l'oseille, j'achèterais dans le colis. Parce que évidemment, il y a de plus en plus de
dans les conseils.
Radio Libertaire, hein,
une radio libre.
Le quart d'heure boursier de Radio Libertaire.
Alors donc, qu'est-ce que tu achèterais?
Donc, j'achèterais dans le colis. La Banque Postale, ça n'aura qu'un temps parce que le modèle va vite s'essouffler. On va vite se rendre compte que c'est des escrocs comme les autres. Oui. Mais sur le colis, si j'ai vraiment pas mal d'oseille à placer, parce qu'il y a un vrai réseau, il y a une ossature quand même assez balèze. Je parle pas forcément au niveau européen, mais sur ce qu'on peut faire en France sur Colipost, c'est une petite pépite, c'est pas mal.
Et puis il y a des vrais gains à réaliser sur le colis.
Ah oui, oui.
Parce que là, on est quand même sur une direction qui filialise à tour de bras.
Il y a de la sous-traitance.
Y compris avec les idées d'auto-entrepreneurs.
Avec des taux de disparition dans les colis de plus en plus élevés, puisqu'on a affaire à un personnel.
Mais il y a qu'à bien le payer.
Quelque peu délicat.
Oui, mais ce qu'on peut comprendre quand on est payé au lance-pierre avec un statut de
vague. Voilà, on part avec l'élastique.
Voilà. Ce qu'on ne peut pas forcément comprendre, une époque où les gens n'étaient pas mieux payés, mais ne travaillaient pas tout à fait dans les mêmes conditions et pas tout à fait avec les mêmes perspectives. Quand on travaille sur la base du SMIG avec des gens qui vous crachent dessus à longueur de journée, et là je ne parle pas de l'usager client, je parle bien des conditions de travail, avec des gens qui ont
la philosophie du CNUT.
Oui, un peu. Et de la très mauvaise condition de travail. Et de la très mauvaise condition de travail. On voit qu'actuellement, il n'y a pas loin de 30% des activités qui sont refilées à des sous-traitants, qui sont les transporteurs, avec les conditions qu'on a chez les transporteurs, les transporteurs et les routiers, qui viennent malheureusement de négocier sur une grève qui n'aura pas lieu et qui vont continuer à rouler 57 heures par semaine pour faire le SMIG. C'est des gens qui, quand chient, on dit attention, la concurrence, c'est ça. Donc, nous, il faut qu'on soit concurrentiel financièrement par rapport à ça.
Des gens qui travaillent 57 heures par semaine.
Vous voyez ? Donc, je pense que Nicolas a raison. C'est dans ce secteur-là qu'il faut investir parce qu'il y a du fric à se faire encore sur la compression de la masse salariale.
Ouais. Travailler plus, hein, pour gagner pareil.
Ça pour rappeler, que c'est véritablement écrit dans la loi, ça doit se faire. Enfin, la Poste, l'entreprise La Poste doit tout mettre en place dans un objectif de meilleure efficacité économique. Voilà. Ça, c'est écrit dans la loi, c'est ces termes-là.
Et voilà, c'est là-dessus que nous, qu'on discute service public, on est sur deux mondes radicalement différents. Le mensonge a commencé il y a relativement longtemps en disant « Ouais, mais les services publics, est-ce qu'il faut qu'ils jettent l'argent par les fenêtres ?» J'ai pas vu un seul service public
qui
jeta l'argent par les fenêtres.
Pardon, ça m'a échappé.
J'ai vu un certain nombre de services étatiques qui était très onéreux, mais j'ai jamais vu que la police jette l'argent par les fenêtres. Elle peut jeter des choses par la fenêtre, des gens par les fenêtres, mais pas l'argent. Sinon, les commissariats seraient mieux tenus.
Ni l'argent. Déjà, oui.
J'ai pas vu que l'armée jette l'argent par les fenêtres.
Ah, ça, j'ai vu, moi. Si.
Elle jette des bombes.
Ouais.
Mais sur des gens. Mais pas de l'argent, sinon, ils seraient beaucoup mieux accueillis que ça en Afghanistan. Et, moi, donc, le vrai truc, c'était est-ce qu'il est normal qu'un service public soit rentable ou soit pas rentable ? On ne s'est jamais mis d'accord sur qu'est-ce qu'on appelait la rentabilité.
Et c'est vrai aussi pour les services de santé.
Pour l'éducation, pour la recherche, pour l'enseignement, pour la culture. Actuellement, avec les luttes qui se développent dans la culture. Alors là, on peut faire
sur la notion même de service public.
La globalité des attaques sur les services publics, tant au niveau des personnels qu'au niveau des services qui sont rendus à la population. Nous, on a toujours prétendu que la rentabilité du service public n'était pas sur la rentabilité économique, mais sur la rentabilité sociale.
Absolument.
Ce qui ne veut pas dire qu'on fout l'argent par les fenêtres.
Au contraire.
Par exemple, aujourd'hui, soigner des gens qui n'ont pas les moyens, ce n'est pas rentable économiquement.
Certes. À court terme.
C'est rentable sans doute socialement, mais au-delà de ça, la sécurité sociale n'est pas rentable, mais demain, seulement les riches peuvent se soigner, et à la prochaine grosse épidémie, on verra si le microbe il s'arrête au compte en banque. Et donc, derrière, il y a ce qu'on voit un peu avec la grippe machin bidule, le taux d'absentéisme qui peut grimper, la désorganisation des entreprises, de l'économie, etc. Là, on le chiffre, chiffrons. Donc, le truc sur vous coûtez tant, donc c'est pas économiquement rentable, est un débat complètement faussé.
Oui, parce que derrière, c'est l'idéologie qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une idéologie pure et dure pour casser...
Pour tuer ma grand-mère, parce qu'elle est plus rentable économiquement.
Elle est plus rentable économiquement, et surtout pour éviter que des gens réclament un peu trop. Donc, il y a vraiment... Le prétexte économique, il est bateau. Ça, on le sait, c'est toujours été le prétexte pour se débarrasser d'une population, d'une classe sociale.
Ce que je veux signaler par là, c'est que il y a quelque part un mensonge, parce qu'on ferait croire que la collectivité a financé à perte des services dont tout le monde se foutait et qui foutaient l'argent par les fenêtres. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était les banques privées qui avait foutu l'économie à terre, que c'est l'argent public qui l'a renfloué, et qu'en plus, l'argent public qui est fait sur le pognon qu'on verse, on est en train de le repayer une deuxième fois avec les services qu'on supprime. Et on le repaiera demain avec l'intérêt du grand emprunt qu'il va falloir financer aussi.
Tout à fait. Qui n'est pas donc, encore obligatoire.
Non, mais...
obligataire.
Mais le paiement, on ne te demandera pas si tu as souscrit pour payer les intérêts.
Pour signaler là encore que justement, c'est dans les lois qu'il y a marqué que tout ce qui appartenait à l'État par le biais du ministère des Postes et Télécommunications avant, est passé dans ce même travers de la loi qui a créé l'entreprise France Télécom, qui a créé la Poste, c'est passé... Tout ce patrimoine-là dont tu parlais tout à l'heure, Gérard, c'est passé dans les mains d'une entreprise qui va peut-être devenir une...
privée pour France Télécom.
Privée,
le cas est
enfin, qui est déjà passé privée et qui va peut-être devenir société passé, anonyme, on va dire peut-être.
Hein. C'est passé entre les mains des actionnaires de société anonyme. Une société anonyme, c'est une société par action, donc les propriétaires sont les actionnaires. Moi, après, qu'on me dit... EDF, GDF ne seront pas privatisés, on restera 50%. Alors, tout le monde se fout de Nicolas Sarkozy. Ouais. Un petit souvenir ému pour Lionel Jospin. Comme ça, on n'oubliera personne.
C'était bon.
Non, mais il avait dit qu'il ne faudrait pas sur le capital de France Télécom, mais que finalement, une fois qu'il est devenu Premier ministre, il ne pouvait pas. Et on comprend que ça lui était difficile et que moi, je n'aurais pas voulu faire son boulot et tout. J'espère qu'il s'est retiré de la politique depuis.
Oui, mais là, attends, ils ont eu la leçon. Et regarde aujourd'hui toute la communication qu'il y a autour de la détention publique de la Poste. Société anonyme publique, parce que c'est quand même un modèle extraordinaire. C'est la première fois que ça arrive. Alors, ça existe nulle part dans aucun bouquin de droit ou d'économie. Une société anonyme publique. Avec cette histoire de personne de droit moral et tout, on a eu tous les arguments imaginables sur ces conneries-là. La vérité, elle est toute crue. C'est la Caisse des dépôts qui va investir en tant qu'investisseur avisé, comme on dit. Et le patron de la Caisse des dépôts, il est déjà en train de dire, moi, il ne faut pas m'empêcher de partir du capital quand je voudrais et de céder mes titres à qui je voudrais.
Bah tiens.
Parce que c'est ça, un investisseur avisé. Il dit deuxièmement, moi, si j'amène 1,5 milliard, il est hors de question que j'ai que 10% ou 15% de la Poste. Ça veut dire, en gros, la Poste, ça vaut que dalle en ce moment, j'en profite. Il me faut 30-40%. Et troisièmement, il dit tout simplement, excusez-moi, j'ai pas mon troisième mot. Ah bah c'est, j'ai plus de troisième mot.
Non. Bah merde.
Mais il y en a un, attendez.
Oh, ça va te revenir. Bah si tu veux, je prends le crachoir 10 secondes. Ah, imaginez, on donne une entreprise. Alors, ça c'est l'intérêt des services publics, ça permet d'expérimenter plein de choses. Une société anonyme avec des fonctionnaires d'État, c'est pas possible. Juridiquement pas possible. France Télécom montre que si on veut, on peut. Et donc, on est quand même un pays de grande innovation. Là, on nous dit, on fait une société publique entièrement, par action, et qui est une société anonyme, dans laquelle les investisseurs publics, oui, qui peuvent avoir des filiales privées, mais ça, on ne va pas rentrer là-dedans, mais des investisseurs publics devront se comporter en bon actionnaire,
voilà,
comme on fait sur le marché. Et donc, imaginons que ce bon actionnaire public, qui détient le capital par action d'une entreprise société anonyme, disent « Ah, mais ça, sur le marché, je peux le vendre, mais je ne le vends pas parce que j'ai... » Ce serait un mauvais gestionnaire, non ?
Tout à fait.
Il jetterait l'argent par les fenêtres, quelque part,
pour le coup.
Et donc, ça ne peut pas se faire. Et donc, la loi du marché, elle n'est pas compliquée. C'est ouvert au marché, c'est la loi du marché qui s'applique.
Absolument. Au moins, ça recadrerait.
Et ton troisièmement,
tu l'as retrouvé, peut-être pas ?
Si. Non, j'ai la bouche pleine.
D'accord. Alors, j'ai une question pour Gérard et pour Nicolas. Qui n'a un peu rien à voir, peut-être un peu digressé. Enfin, on reste dans la Poste, hein, y a pas de problème. Mais bon, moi, j'ai récupéré quelques superbes machins là de la Poste. Et alors, si vous avez entendu parler du Challenge Hero 2008, voilà, c'est avec un nouvel objectif à atteindre, être héros au service de vos clients. Donc, ça touche évidemment, j'imagine, les coffee, enfin les conseils financiers. Il y a toute cette population. Qu'est-ce que c'est être un héros au service de vos clients ? D'ailleurs, le mot usagé a disparu. Hein.
D'abord, c'est héros.
Il y a un héros, excuse-moi. Héros. Mais bon, je ne le prononce pas parce que je suis du Nord. De quoi tu en as entendu parler, tu sais ce que c'est?
Non, mais en fait, d'après ce que je comprends, c'est un petit peu un truc spécialisé pour les conseillers financiers, ouais. Où on essaye de les mettre un petit peu au pinacle.
But de l'opération, réunir le maximum d'informations clients, adresse, courrier, mail, numéro de téléphone fixe et portable, afin de disposer d'un fichier plus complet et plus fiable. Ah ben, c'est ce que je lis dans les... Tiens, je vous le laisse après, hein, si vous voulez.
Ça me fait penser à un truc que j'oubliais de dire tout à l'heure dans les trucs qui étaient gratuits.
Il y a quelques années,
on vous appelait pas gratuitement le soir au téléphone pour prendre rendez-vous avec le conseiller financier. On vous foutait la paix à la maison.
On vous emmerdait pas pour le bande des merdes.
Ah bah non, mais y compris les gens qui font ça, faut un peu comprendre. Ils travaillent sur des centres d'appel, dont c'est d'ailleurs pas si c'est la Poste. Ou alors, ce sont des adjoints aux conseillers financiers qui doivent faire du chiffre à la fin du mois, etc. Et qui sont sur la pression parce qu'ils vous téléphonent pas à 20h parce qu'ils se font chier chez eux. Hein.
Alors,
parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Donc, on revient à ton truc sur Eros, soyez séduisant. Comment obtenir des renseignements de la clientèle?
Alors, donc, évidemment, le but des conseillers financiers, c'est de construire un espèce de fichier Edwige. Hein, Lulu, tu me coupes, toi qui es spécialiste. Pour harceler de toutes les manières possibles les clients qui sont au pote. Les non-usagers, donc les clients, qui seraient potentiellement intéressants. Et moi, je voudrais savoir, juste pour rappeler, comme ça, nos auditeurs, peut-être, de nous dire quelles sont les seules mentions légales qui peuvent être demandées, qui peuvent être utilisées pour monter un compte, c'est-à-dire l'adresse, je crois.
Un compte en banque, il faut une adresse et une pièce d'identité. Voilà.
Et terminé.
Et de l'oseille, bien sûr.
Et du fric, bien sûr.
Mais là-dessus, sur ces histoires de... Alors, à l'époque, on parlait de...
Il faut pouvoir justifier de l'adresse, donc peut-être une quittance de loyer ou de...
Oui, mais c'est bien ce que je te dis. Mais après, sur ces techniques, alors à l'époque, ils appelaient ça le harpon. Tu te souviens, il y avait l'ancien directeur des services financiers de la Poste, c'était la méthode harpon.
Ah, c'est la métaphore de haut level. Hein.
Non, mais c'est ça. Donc, et puis après, il n'y avait pas pain. Il y avait un truc, c'était droit au but. Non, mais c'était... Ouais, on a tout eu. On en a eu des...
Alors, non, pas... C'était pas Arpin et Papon.
Arpagon.
Bon. C'était Arpagon, voilà, justement. Mais...
Non, le problème qu'il y a là, c'est qu'on a des applications de plus en plus avancées. Alors, il y a tout un truc sur les successions même, où il faut... Parce qu'il y a un grand problème à la Poste, la clientèle est vieillissante, d'accord. Et quand...
Comme l'électorat
mamie disparaît de cette bonne planète qui est encore un peu la nôtre... L'héritage, où il va? Où est l'argent, le patrimoine? Et donc, il y a une application spéciale à la Poste qui est dédiée aux conseillers financiers où ils doivent absolument choper tous les héritiers en disant, laissez les actifs à la Poste, ouvrez un compte là. Où est-ce que vous allez? Vous êtes à la BNP, mais ils vont vous escroquer sur les droits de succession. Nous, on vous fait un truc et tout. Donc, on a tout une espèce d'éventail d'applications là-dessus. Alors, il y a les anniversaires. Il y a un truc aussi où... Allô, bonjour. Ah, joyeux anniversaire.
Tu as 6 ans, tu veux ouvrir un compte à la Poste. Voilà. D'accord.
Donc, voilà. Donc, on a... Ils sont pas... Alors, ils ont des laboratoires. Ils appellent ça le laboratoire. Et donc, dans ce truc-là...
Nous sommes les cobayes. Hein.
Il y a une espèce d'usine à idée à la con où on va nous proposer des trucs. Et donc, le héros, ça doit sortir de ce truc-là. D'accord. Certainement.
Et je me rappelle, moi qui suis très très vieux, à une époque, un certain nombre.
On parle dans le micro parce que tu ne le vois pas là.
Un certain nombre de gens ouvraient des comptes, et y compris un des motifs pour lesquels ils ouvraient les comptes, c'est qu'on ne se comportait pas avec eux comme des banques, on ne leur plaçait pas des trucs de force, on ne les estampait pas, et on ne les harcelait pas au téléphone. Aujourd'hui, alors ce qui est bien, c'est que les banques ont quand même. Les banques classiques ont quand même quelques décennies d'avance sur les conneries à pas faire, donc elles arrêtent de les faire, pas toutes, elles en font d'autres, mais il y a un certain nombre de conneries qu'elles ont cessé de faire, et ça tombe bien, la Poste innove en reprenant les conneries que les autres ont laissé tomber depuis 20 ans.
À l'ancienne.
Il faut rattraper le retard.
Mais juste un petit aparté pour signaler à Nicolas qui disait le dernier service, c'est les renseignements généraux. En 62, dans les premières lois, il était question que la Poste, l'entreprise, donc...
62, oui, l'administration.
L'administration, disons, était autorisée à fournir aux organismes de police les adresses. Elle était autorisée. Là, en 2005, dans les dernières lois, je vais essayer de vous retrouver donc la loi 2005-516. Le prestataire du service universel et les titulaires d'un communique aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale et à l'administration fiscale les changements de domicile dont ils ont connaissance. Et donc là, on est vraiment.
Mais ça c'est.
On disait ça sur le coup de la rigolade,
ça date d'il y a longtemps. Bon, ça me paraît un peu logique aussi quand tu cherches quelqu'un un repris de justesse, etc. Bon, ça peut être possible. Hein. Comme par ailleurs, la Poste a des missions aussi sur en cas de guerre. Il y a on doit être le doigt sur la goutte du pantalon. C'est pour ça qu'on est fonctionnaire aussi pour ceux qui restent et puis être à la disposition de la nation pour garder un réseau postal. Par contre, ce qui est beaucoup plus inquiétant, et ça c'est quelque chose sur lequel je suis tombé complètement par hasard il y a pas longtemps, c'est que la Poste a passé une convention avec les caisses d'allocation familiale dans laquelle elle s'engage à envoyer ses facteurs pour voir s'il y a vraiment un immeuble à l'adresse indiquée, s'il n'y a pas une double sortie ou s'il n'y a pas deux adresses sur un jardin. Et ça, c'est noir sur blanc, je le tiens à votre disposition. Là, pour le coup, on dépasse, d'accord? On part sur vraiment de la pure délation, etc. Et le facteur
social, hein,
dont ce n'est pas la mission. Là, c'est la Poste, c'est la boîte, d'accord?
Donc, n'importe
quelle banque, n'importe quelle boîte qui a des adresses.
Y compris, faut être précis, ça, c'était le code des postes et communications. Mais
défends ta crémerie.
Non, mais c'est pas ça. Après, on en pense ce qu'on veut, du devoir de désobéissance et de la capacité de résistance.
On n'en est pas là.
Ce que tu as cité, c'est un truc, c'est sur réquisition d'une autorité judiciaire. Ouais. C'est pas la police te demande. Ils disent, voilà, il y a un juge ou un procureur, il y a une affaire en cours, on vous demande de nous communiquer ceci. Y compris, je ne serais pas du tout complètement opposé.
Pas du tout complètement.
Voilà, pas du tout complètement, et voir même par moment même complètement favorable à ce qu'on applique ce genre de choses à un certain nombre d'avoirs qui s'échappent régulièrement, mais sur lesquels il n'y a pas de commission rogatoire.
Des noms. Il y a des fois, c'est écrit dans la loi.
Donc on peut dire, en tout cas, il y a une codification là-dessus. Il y a une autorité judiciaire qui s'adressait avant une administration qui aujourd'hui y transpose. Ils disent c'est une société anonyme, mais cette société anonyme, quelque part, on reconnaît que elle a une fonction particulière et qu'elle doit se conformer. Elle doit se conformer aux injonctions d'une autorité judiciaire. Parce que ce dont cause Nicolas et qui ne figure nulle part là-dedans, c'est autre chose. C'est du gré à gré.
C'est le directeur du coin qui dit au facteur, va regarder les adresses, va regarder ceux qui chouent aux allocations familiales.
Il doit y en avoir énormément, puis c'est vrai qu'il faut contrôler les 30 ou 40 euros que certains ont gratté à droite à gauche pour survivre. Ce temps-là, les milliards valsent à droite à gauche.
Il faut bien contrôler les mariages gris.
Et puis aussi les mariages gris tant qu'on
est là. Mariages grecs.
Est-ce qu'on va peut-être repasser un petit morceau de musique.
Allez, un petit peu de rock'n'roll maintenant.
Déjà, il va aller pouvoir aller fumer sa cigarette.
Voilà, et puis nous, on va pouvoir bouffer.
Voilà. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 01 43 71 89.
Mais vous n'êtes pas obligé.
40.
Allez, pour les anciens, au bonheur des dames et Boris Vian mélangé, ça donne ça.
Oh. Ah, quelle misère, je me désespère, vivement commentaire. Ça met en âge, ça met en rage. J'arrête plus de pousser des cris sauvages. J'ai le hockey, Dieu me l'a fait et je ne peux plus m'arrêter. Je suis suffoqué. Oh, je rockette. Baby, fais-moi peur. Oh, baby, fais-moi peur. Baby, soulage mon pauvre cœur. Baby, faut soigner ton homme. Va te chercher des remèdes avec de la boule de gomme. Mais si tu désires me guérir tout de suite, il y a belle maman de s'amener bien vite. Rien que de regarder sa sinistre binette en une demi-seconde, le piroquet s'arrête. Pourquoi se moquer de mon hockey? J'ai l'air choqué, je ne peux plus m'arrêter. Je suis suffoqué, peut-être que je vais crever. débile le remède au père. T'as bien fait d'aller me chercher ma belle-mère. Je l'ai vue entrer dans notre appartement. Et son air féroce m'a retourné les sangs. J'ai bu le hockey et je re-rock'n'roll. Et je vais danser avec Martine Carole. J'ai bu le hockey. J'ai bu le hockey. Ça me choquait, ça me choquait, ça me choquait comme une boule de croquet. Voilà le bouquet. Recommençons le banquet. Partez le briquet, ouvrez vos quinquets, fermez les loquets, vidons les baquets, jouons de bilboquet parmi les bosquets. Car c'est fini, j'ai bu le hockey.
Rock, ok, jadis immortalisé par Henri Salvador. Voilà. Bon, on s'est rincé un peu le trou de machin et c'est bon. Maintenant, on va pouvoir recommencer. C'est reparti, mon kiki.
Alors,
Cédric.
Bah oui. Forcément, je finissais mon petit gâteau.
Nous deux.
Alors, tout le monde est parti.
Il y en a un donc, au téléphone.
Écoute, moi, je reste toujours terre à terre. Hein, donc, on connaissait tous très bien le livret A. Je sais que vous avez fait une émission là-dessus, donc on va faire très vite. Mais j'ai entendu parler du livret A rénové. Alors, ça sent l'entourloupe, ça sent l'arnaque,
ça pue. Le livret A, c'est une histoire extraordinaire parce que c'est bon, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'outil classique de gestion des biens populaires en bon père de famille, comme on disait. Et là encore, hein, je dois reconnaître, le gouvernement a une idée assez lumineuse qui a été en plein dans la crise, en plein dans la crise bancaire, de donner accès au livret A au monde bancaire français. Et ça a eu des effets assez bénéfiques, on va dire, pour les banques, hein, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, à savoir que c'était quelque chose qui était centralisé donc à la Caisse des dépôts et consignations, comme on disait tout à l'heure. À l'époque, il y avait 160 milliards d'euros, si je me souviens bien. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 210, un truc comme ça. Et les banques, ça fait très très longtemps qu'elles veulent mettre la main sur ce magot. Donc la nouvelle loi, alors il y a eu un double effet, c'est-à-dire que premièrement, les banques qui ouvraient le livret pouvaient garder, disposer des fonds dans leur compte, dans un premier temps. Et deuxièmement, au moment où l'annonce a été faite, c'était en juillet 2008 que cette loi est passée, et ben les banques, elles étaient au fond du trou. Et elles passaient leur journée, alors c'est une image, hein, mais à appeler des prêteurs, des investisseurs, pour leur dire « il faut que tu me prêtes de l'oseille parce que je suis au fond du trou ». Et le prêteur, moi quand je prête de l'argent à quelqu'un, ça m'arrive jamais parce que j'en ai pas, mais si j'en prêtais, je dirais que quand même tu as des petites garanties, je te connais à peine, BNP, je pense que c'est que ce truc et tout, bon voilà. Donc qu'est-ce que tu as comme garantie ? Et les banques disaient « moi pour l'instant j'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles parce que c'est la merde, j'ai tout perdu chez les escrocs aux États-Unis, etc. » Et Christine Lagarde, Sainte Christine, est arrivée à leur secours en disant « Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À partir du 1er janvier 2009, vous allez pouvoir vous s'empiffrer avec l'argent du livret A. » Donc les banques ont promis ça, ont mis ça en gage un petit peu pour redéclencher un petit peu la machine et décompresser un peu la tension qu'il y avait parce que les mecs empruntaient à 16% et tout.
Tu veux dire des garanties sur ce qu'ils n'avaient pas.
Voilà, exactement. Donc des futures garanties sur de l'argent qu'ils allaient avoir mais qui n'avaient pas encore, etc. Et ils disaient j'ai une embellie, j'ai une bonne nouvelle, je vais toucher l'oseille du livret A. Donc ce truc a détendu un petit peu, mais quand même pas mal l'économie. Donc aujourd'hui, on en est à quelque chose d'assez particulier, c'est que il y a la fameuse histoire des doubles détenteurs avec des millions de gens. Il y a trop de livrets par rapport aux gens qui pourraient en avoir.
Donc ils sont en train d'éliminer tout ça.
Voilà, on sait d'éliminer, il faut voir comment. On sait aujourd'hui que le Crédit Agricole, pour pas le nommer, non, je l'ai pas dit. Mais bon, enfin que certaines banques qui ne proposaient pas le livret A ont ouvert des doubles livrets en disant on en ouvre un tout de suite, je vous fais une offre, je vous fais 3 mois d'intérêt gratuit, je sais pas quoi et tout. Et puis on réglera ça plus tard. Or, pour régler, c'est un peu compliqué. Notamment avec La Poste et la Banque Postale, pour pas la nommer, qui s'est montrée un petit peu tatillonne sur les fermetures de dossiers. Genre, il y avait un truc qui était plié dans le mauvais sens, il manquait une signature. On renvoyait ça dans les 22 mètres.
C'est très bien, quoi.
Donc voilà. Et surtout, alors il faut voir aussi le truc, c'est que tout le travail de transfert, de livret, etc., c'est pas les banques réceptrices de l'argent qui le font, c'est la Banque Postale ou les caisses d'épargne qui lâchent. Et qui se tape toute la paperasse. Donc là aussi, il y a eu un coup sur ces histoires-là. Donc en gros, c'est vraiment une vaste fumisterie qui met en danger, comme disait Gérard tout à l'heure, quelque chose qui a contribué et qui contribue encore à l'économie sociale, que ce soit le logement social, les investissements publics, les collectivités, etc. Et où on le rend beaucoup moins attrayant, puisqu'aujourd'hui, le taux à 1,25, c'est vraiment une rigolade. Et il faut se souvenir des paroles du bon Raffarin, quand même, une autorité en la matière, en matière de saloperie, c'est quand même un dieu, celui-là, et qui disait, à l'époque, il se plaignait, il se lamentait sur le bas de laine des Français qu'il fallait crever.
Mais il fallait s'endetter.
Et là, on l'a bien crevé, oui. Le bas de laine.
D'accord.
Alors, ceci dit, en interne, un certain nombre de collègues qui travaillent dans les services financiers sur ces affaires de attention, maintenant, il faut arrêter avec les doubles livrets. Il y a une chasse terrible qui a été faite sur les doubles livrets à l'intérieur de la Caisse nationale d'épargne, donc des services financiers de la Poste, qui a été y compris menée tambour battant et un peu en dépit du bon sens. Alors heureusement, on a quelques collègues plus nombreux qu'on ne croit qui n'ont pas appliqué les directives et qu'on dit attendez, moi on me dit de fermer un machin, mais faut vérifier.
Il y a eu des gens rasés.
C'est un particulier. C'est.
On a rasé des doubles détenteurs.
Oui, on les a tondus. Non, mais là-dedans, il y avait des gens, des comptes de sociétés, notamment d'associations. Il y avait énormément d'associations qui avaient des livrets. Donc, il fallait vérifier. Alors, il y avait des gens qui disaient, mais attends, mon association, c'est plus moi le président depuis longtemps, mais on n'a pas fait le changement, mais le club de pétanque continue de fonctionner. Alors, certains collègues ont dit, mais votre affaire, ça marche pas. Vous nous foutez des couperets qui tombent sans pouvoir vérifier. Donc, il y a des gens à qui on a fermé des livrets qu'on ne devait pas fermer. Il y a eu des micmacs, alors y compris après des staffs de cadres qui sont descendus pour essayer de comprendre comment ça marchait parce qu'ils n'étaient pas du tout formés.
Mais oui, ça, c'est pas propre à la Poste. Ils vous cadraient, mais ils ne savaient pas comment fonctionne.
Ça, c'est pas propre à la Poste. Je pense que c'est une gestion globale des entreprises aujourd'hui de dire il faut surtout pas que les cadres, notamment les cadres stratégiques, connaissent comment fonctionne le métier, parce que sinon, il y a une proximité qui se fait. Et c'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça qu'on cherche. Mais cette affaire de banalisation du livret A a eu des effets assez redoutables sur toute une série de gens qui étaient complètement de bonne foi. Et qui étaient détenteurs de livret A,
qui sont devenus des menteurs.
Et qui, détruisant des repos de justice, des gens à dénoncer à la CAF.
Limite des terroristes, quoi. Pour reprendre le fil, on en est à peu près où? Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué? Parce qu'on il est déjà 22h15,
la concurrence. Moi, je voudrais qu'on évoque quand même la concurrence du courrier, parce qu'elle existe.
Pourquoi pas?
Elle existe, il y a plusieurs choses qu'il faut évoquer. Il y a au moins une affaire que je vais évoquer, parce qu'elle est très 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 récente.
Une concurrence alternative, tu veux dire?
Oui. Il y a un opérateur privé. Alors, sur le courrier, on a plusieurs directives postales. On va pas refaire l'historique. Hein. De toute façon, maintenant, l'affaire est en passe de se finir. Où on a libéralisé par tranche de poids. Et donc, jusqu'à maintenant, le courrier supérieur à 50 grammes est entièrement ouvert à la concurrence. Et le courrier inférieur à 50 grammes, courrier adressé, et toujours sous monopole Poste.
Adressé, c'est important ce qu'il a dit.
Alors adressé, c'est-à-dire qu'il n'est pas le publicitaire. Il n'est pas
celui qui a une adresse. Voilà, peut être publicitaire, mais dès lors que c'est un pli fermé avec une adresse.
Une adresse, un nom et une adresse, quel que soit son langage, alors, en martien, en moldovan.
Pendant longtemps, moi je me rappelle, il y a 10 ans, on disait la concurrence, ce sera des boîtes qui viendront, alors soit sur le courrier transfrontalier, soit qui viendront écrémer les segments les plus juteux, c'est-à-dire sélectionner un certain nombre de clients, notamment de gros déposants sur des courriers, sur les grosses agglomérations. Alors, on a un opérateur qui s'est installé, on en a quelques-uns, mais le principal qui s'appelle Alternative Post. Donc, Alternative Post, y a un dépôt à Bagnolet qui distribue une partie du courrier sur Paris. Le siège est à Lyon, ils font du courrier sur l'agglomération lyonnaise, Villeurbanne, etc. Donc ils sont localisés sur une dizaine de grosses localités, pas énormément de personnel, 300.
Des contrats aidés, surtout.
Et en démarchant avec du personnel qui est soit sous contrat aidé, soit du personnel à temps partiel sur la base du taux horaire du SMIC. Ces gens ont cette entreprise, y compris, a aujourd'hui distribué distribuait jusqu'à il y a quelques temps du courrier inférieur à 50 grammes, donc théoriquement sous monopole postal. Parmi ses clients, alors...
Pas théoriquement, vraiment sous monopole postal et passible d'une amende de 50
grammes. Non, non, elle distribuait théoriquement il y a encore quelques temps. Elle distribue théoriquement aujourd'hui. Le théoriquement, c'est surtout aujourd'hui puisqu'elle est en liquidation judiciaire. Donc cette entreprise démarchait alors un certain nombre d'organes de presse.
Des grands émetteurs.
Hein, des gros émetteurs, donc des journaux, des revues, des, bon, on va pas les citer.
Du caritatif aussi.
Beaucoup d'associations caritatives, et notamment cette période de l'année où en gros c'est le moment de Noël, c'est le moment de faire des dons. En plus, ouais, c'est déductible des impôts. Pensez à faire votre don. Hein. Je ne vais pas vous faire la liste non plus.
J'ai déjà le bouclé les cas-là.
Un certain nombre de gros émetteurs, alors là, public ou parapublic, EDF, SNCF, etc.
AFP.
Et ils avaient trouvé une parade pour distribuer du courrier inférieur à 50 grammes. C'est de dire, mon courrier, il n'est pas adressé, il est codé. On remplaçait l'adresse par un code. Un code
mais
à numéro,
avait,
un
par code barre. Il y avait le nom du
et il y avait le nom et l'adresse était remplacée par un code.
Donc c'était illégal.
Donc ce truc-là, théoriquement, ils ne pouvaient pas. Leur parade, c'était de dire, c'est plus du courrier adressé. C'est du courrier codé.
Codé,
hein. Donc la Poste avait saisi l'organe l'Arcep. De régulation, là, l'Arcep, qui marche déjà très vachement bien pour les télécoms. C'est ceux qu'on dit... faut ouvrir votre réseau aux concurrents parce que sinon c'est de l'abus de position dominante. En gros, essayez d'imaginer ça, un plan individuel. Vous avez le droit d'aller vous raccorder sur le circuit et de tirer les, faites ça sur le palier, sur l'électricité. Tentez ça chez vous. Eh ben, si vous êtes une société sur la boucle locale en cuivre, c'était possible. Et vous pouviez pas. Et on va voir la même chose au niveau de la Poste. Mais je reviens sur Alternative Poste. Donc, l'ARCEP,
la Poste
l'autorité de régulation avait saisi l'ARCEP qui continue de dormir actuellement. Hein. On dit tout le temps les sénateurs dorment. Non, il y a mieux que il y a l'autorité de régulation.
Ils vont pas bien. Hein.
Et je pense qu'au 1er janvier, ils vont rendre un avis. Ça tombe bien puisque la loi sera passée et que de toute façon leur avis, tout le monde s'en foutra. Entre temps, Alternative Poste s'est rendu compte que même dans les conditions sociales qu'elle faisait à ses salariés. Elle atteignait pas le point d'équilibre et qu'elle bouffait du pognon. Et à tel point qu'elle vient d'être prononcée.
Le 12 novembre, ils ont fermé les grilles. Les gens se sont pointés.
Et le tribunal de Lyon vient de, où il y avait le siège de la société, vient de prononcer la liquidation judiciaire il y a moins de 10 jours. Résultat des courses, on a des salariés de cette entreprise qui sont sur le carreau. Ils n'ont pas été payés en octobre. Ils n'ont pas été payés en novembre. Ils sont toujours en train de demander à être payés et à demander où est passé leur patron. Et là, on ne cause pas...
Il n'y a pas de terrorisme.
Hein. Le courrier de gens qui avaient confié, notamment des sociétés, des émetteurs, organes de presse, associations plus ou moins caritatives, gros émetteurs publics ou parapublics bien faits pour leur gueule, qui avaient... parce que les prix étaient vachement intéressants, leur courrier... Et on les entend parler. Comme il est toujours à Bagnolet.
Ah oui. Ouais.
Et il y a un problème, c'est que...
toujours à Paris.
Il est difficilement... l'ARCEP, elle ne peut pas franchir le périphérique. C'est la banlieue, ils ont peur.
Elle a un rôle, là.
Mon chèque est à Bagnolet, alors.
Voilà. Et ce courrier n'est pas distribuable. Ou alors, il faut nous donner les codes.
Et les coder.
Et y compris, si on nous donnait les codes, il y aurait un coup de traitement, sans doute. Donc, pour l'instant, personne ne se mouille dans cette affaire. Il y a du courrier qui est en souffrance. Personne n'en parle, c'est ça qui est intéressant. Au moment où on
du
vote...
courrier qui est pris en otage, un peu.
Non,
qui est en train de pourrir. Ce qui est intéressant, c'est au moment où on vote...
En otage, il ne vaut plus rien, attends.
La loi qui doit permettre l'exercice de la concurrence dans un secteur et sur une activité et une entreprise qui était déjà en situation et s'était mise en situation de faire concurrence sur la totalité du courrier avec une logique d'écrémage des marchés. Ouais. Donc socialement, les mecs au carreau, économiquement, une boîte. Leur logique, c'était on investit et dès que ça rapporte, on se tire. Bon, c'est malheureusement, ils se sont tirés avant parce que ça leur coûtait un peu trop. Ils n'ont pas voulu être patients encore un ou deux ans de plus.
Finalement, c'est un bon test. De voir ce que vont réaliser les sociétés qui vont entrer dans le...
Alors, c'est un bon test, sauf pour les 300 salariés qui, par ailleurs, étaient des distributeurs de courriers. Donc, qu'est-ce qu'ils font, très logiquement ? ils disent, mais nous, on est des distributeurs de courriers, alors qu'on demande au pouvoir public. Vous savez, c'est pas Molex, mais ça pourrait, quoi. On demande au pouvoir public d'intervenir et de nous recaser. Mais où c'est qu'on peut nous recaser ?
À la Poste.
À la Poste, parce que qui fait du courrier ? La Poste. Et donc, personne ne répond. Alors, syndicalement, y compris, ils ont un soutien des syndicats de postiers. Hein. On a actuellement un militant en Sud-PTT de Paris.
Qui
a été mis à pied.
Qui
attend son conseil de discipline parce que les gens sont arrivés devant un centre courrier à Paris, de la Poste, et en disant que eux, ils n'étaient pas payés depuis 2 mois, qu'ils étaient dans une merde noire, que leur métier, c'était distribuer le courrier, qu'ils voulaient être entendus, reçus par la Poste pour savoir si on pouvait les embaucher. Et donc, avec un soutien, donc il y a CGT qui était prévenu, Sud qui était prévenu au niveau parisien, et le camarade, le militant Sud, qu'un des secrétaires départementaux a pris fait et cause en disant que leur combat était juste et tout. Les gars de la CGT ont dit aussi, ouais, c'est juste, ils ont raison et tout. Je sais pas le détail. Toujours que la prise de position en disant c'est normal, l'action elle est légitime, ces gens ils ont raison d'agir, il faut qu'on soutienne leur démarche. On a donc un militant sud PTT aujourd'hui qui est mis à pied en attente de son conseil de discipline par la Poste parce que la concurrence, ça se défend pas, ça se combat.
Mais ce qui m'a, pas la demander. Hein.
ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que ça se passe en plein débat sur l'ouverture à la concurrence dans un silence total. Total. Aujourd'hui, une boîte qui ferme avec 300 salariés au carreau, on en parle. Là, on n'en parle pas.
Là, on n'en parle pas. Ouais, bien sûr.
Là, des émetteurs de type SNCF, donc des gros émetteurs qui ont du courrier en souffrance, qui n'est pas distribué depuis 2 mois, qui dort dans un hangar, personne ne moufte. Personne ne porte plainte.
Derrière, on voit ce qui est derrière.
Donc je me disais, il faut venir sur une radio libre pour en parler, même si elle est subventionnée par le public.
Non. Là, on a affaire à
faire parler les auditeurs. De moins en moins. Le fonds de péréquation, t'inquiète pas, va toucher les radios libres aussi. On a nos auditeurs qui peuvent souscrire d'ailleurs.
Vous avez un fonds de péréquation qui ressemble à notre autorité de régulation.
On va dire ça comme ça, voilà.
On peut faire un petit truc européen, un tout petit peu là-dessus, mais c'est vraiment en 3 secondes.
Est-ce qu'on pourrait quand même avoir droit à l'extrait que tu nous as lu tout à l'heure?
Vas-y, je t'en prie.
On va peut-être pas parler tout de suite de l'Europe. Je penserais aborder ce point-ci, mais comme on vient d'en parler, si on pouvait continuer sur
ce que va devenir là.
Ce à quoi, la situation vers laquelle on tend aujourd'hui avec tout ce qui est en train de se passer, puisque ça, c'est un exemple quand même. Va-t-il être représentatif ou pas ? Est-ce qu'on peut déjà penser
ça paraît assez inéluctable, mais est-ce qu'il y aura moyen d'empêcher aussi la privatisation de la Poste quelque part ? Est-ce que c'est possible ?
Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, ce qui aurait pu empêcher ou ce qui peut empêcher la privatisation de la Poste, ça aurait été vraiment... Alors il y a deux choses.
La mobilisation.
La première chose, c'était la grève illimitée. Donc la grève illimitée, je pense qu'on peut l'ouvrir, l'oublier. L'ouvrier, très beau lapsus. On peut l'oublier parce que le fait est que l'intersyndicale ne fonctionne pas. Il n'y a pas ça.
Mais
un véritable blocage, quelque chose de vraiment costaud, ça aurait été quelque chose. La deuxième solution, je pense qu'on est allé très très loin, alors notamment sur les histoires de votation et tout ça, c'était un mouvement populaire. Or, les gens l'ont fait, l'envoi.
Ça a marché, ça a très bien marché.
Plus de 2 millions et demi de personnes.
C'est illégal, on dit le gouvernement.
C'est même pas légal. Alors, pour être illégal, il faudrait encore que ça puisse être légal. Alors, c'est un truc sorti de nulle part, donc il n'y a pas de problème.
C'est pas dans le texte. Non.
Après, le vrai mouvement populaire, le vrai mouvement social qu'il aurait pu y avoir et tout, n'est pas arrivé. Bon, alors, c'est faute de combattants. Les grosses organisations qui étaient en capacité de faire monter du monde, etc. Un truc qui dure depuis 17 mois, où on s'est vraiment battu beaucoup, beaucoup. On aurait pu faire mieux, ça, c'est sûr. Bon, c'est pas... Après, évidemment, le projet de loi va passer, ça, faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, tout ce qu'il peut y avoir comme truc, c'est une vague promesse d'une gauche hypothétique qui reviendrait un beau jour ou un autre au pouvoir.
On peut faire une pause.
J'attends ça. Qui dirait, le jour, quand je reviendrai, je te renationaliserai tout ça. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Maintenant, le problème, moi, je suis beaucoup plus sceptique et je pense que ça viendra pas que de la Poste. Mais le modèle économique choisi est tellement merdique, la situation du courrier est tellement foireuse. Et troisième chose, alors on en vient à l'Europe. L'idée même selon laquelle le marché serait bénéfique avec des particularités pour chaque pays serait bénéfique à la collectivité, etc. C'est tellement foireux que j'ose espérer qu'un jour ou l'autre, les gens vont s'apercevoir qu'on est en train quand même de les entuber depuis quelques temps. 25, 30, 40 ans au choix, hein, suivant les générations. Bon, il y aura un truc à faire. Aujourd'hui, c'est évident que arrêter le projet de privatisation, sauf big scandale, ce qui est toujours pas exclu, hein, parce qu'on a quand même affaire à des mauvais. Ils savent faire des conneries, hein. Notamment la Banque Postale, il y en a encore à raconter.
Un exemple.
On vient d'acheter une boîte qui s'appelle Tocqueville Financement. C'est un truc.
Quand on dit on, c'est pas toi, c'est pas sûr.
C'est eux.
Alors ça, je me fais engueuler toujours par mon très très excellent camarade Alain Baron, à qui je fais une bise radiophonique, qui était administrateur de France Télécom et qui me disait mais arrête de parler de ta boîte en disant on. C'est une déformation. Bon voilà. Non. La Banque Postale vient d'acheter une boîte qui s'appelle Tocqueville Financement. C'est une espèce de petite banque de placement pour personnes très fortunées. Or, en creusant un peu, Tocqueville Financement, il s'est pris 300 000 euros d'amende il y a 3 ans par l'autorité des marchés financiers, ce qui lui arrive rarement. Hein, l'AMF,
oui, ils sont pas méchants, hein, c'est des gentils. Hein.
Et 300 000 euros, c'est quand même quelque chose.
Il y a du laxisme là, par contre.
Parce qu'en fait, il prenait un peu l'argent de Madame la Marquise du Schmoul ou je sais pas quoi, et puis il ne le plaçait pas directement, il le gardait une ou deux semaines dans le tiroir. Ça s'appelle de la cavalerie, enfin, si je ne m'abuse. Donc on a acheté quand même un escroc patenté, et donc ça. Mais il y en a plusieurs. Hein,
c'est pour ses qualités d'expertise.
Donc voilà, donc il y a une espèce d'accumulation de conneries qui peuvent se faire et tout. Bon, maintenant, immédiatement, le projet de private, il va passer avec une extraordinaire bonne conscience. Bon, après, moi, je sais pas, moi, j'ai quand même une relative confiance dans la collectivité. Hein. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas beaucoup, mais au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Et là, on se rend compte que c'est vraiment une grosse, grosse bêtise. Je pense que c'est un pas de trop là qui a été fait.
Ça va être quoi les premiers effets de cette bêtise? Le courrier va pas arriver?
Non.
Ça va se passer comment?
Les premiers effets, tu vas avoir ce qu'on appelle. Non, mais t'es pas loin du compte. Hein, ce qu'on appelle la dépéréquation tarifaire, c'est-à-dire que dans la loi, mais depuis 2005, c'était déjà là, et c'est quelque chose qui est demandé par l'Europe. On demande que pour les plis envoyé en nombre, il n'y ait plus de péréquation tarifaire. Donc le prix unique du timbre ne serait appliqué qu'au courrier des particuliers. Au courrier, alors c'est un peu un barbarisme, le courrier égrené. Alors, très marrant, c'est assez pathétique, mais bon. Le courrier égrené, je me suis demandé un petit peu ce que c'était. Donc la fameuse ARCEP, elle gratte quand même un petit peu. Elle a fait un observatoire de postal 2008. Et on s'aperçoit qu'en 2008, le courrier égrené, ça représentait à peu près 49% des volumes. Parce que c'était tout ce qui était en dessous de 400 unités. 400 items, comme on dit dans le jargon postal.
Items.
400 items. Donc, dans le jargon postal. Donc, en dessous de 400, c'était de l'égrené. Donc, là-dessus, on pouvait imaginer que le prix du timbre resterait identique ou qu'on envoie ce courrier sur le territoire. En octobre 2008... Figurez-vous que notre grande copine Christine, dont on parlait tout à l'heure,
la garde, oui,
a signé un petit arrêté en disant « Ah bah tiens, au fait, le volume maintenant pour considérer un envoi en nombre, ça descend à 100. » Donc on se retrouve avec 15-20% au pif, je dis ça vraiment au pif, de courrier qui sera sujet, qui restera sur un prix unique. Ça, c'est le premier effet. Donc si on paye à la distance, ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal développé à Sud-PTT, il va y avoir des conséquences. Ça veut dire qu'un grand émetteur, on va lui dire « Sur les 40 plus grandes villes de France, je te prends 40 centimes le pli. » Et dès que tu sors d'un rayon de 2 km de la ville, ça sera 65 centimes. Et en plus, comme je suis la poste et que je suis sympa, je t'offre la géolocalisation, je te dis le nom de tous les gens qui habitent dans les 2 km. Qu'est-ce qu'il va faire le mec? Il va dire, moi, tous les gens qui habitent dans les 2 km, je continue à leur envoyer du courrier, dedans. Et puis tous les gens qui habitent dehors, je vais leur envoyer une dernière lettre. Je vais leur dire, cher client, je vais leur dire, cher camarade, cher client, ton relevé décadère, si tu veux continuer à le revoir, soit tu payes, soit je t'invite à aller sur Internet. Voilà. Si tu l'as, mais généralement, plus tu t'éloignes de ce petit rayon, moins tu as Internet. Donc c'est vraiment la double, voire la triple peine pour les gens qui sont éloignés. Alors le souci qu'on a, c'est qu'il y a un dernier étage à cette connerie, c'est qu'en plus, ça va faire encore plus baisser les volumes du courrier. Parce que le dogme européen dit que dans ce cas-là, l'émetteur, puisque le courrier est pas cher dans le centre-ville, eh ben il va en envoyer encore plus. Alors moi j'ai pas encore vu ça. Hein. À mon avis le mec, l'économe qu'il a fait là, il va se la mettre dans la poche, il va la reverser en dividende et puis il sera bien content de la faire. Donc voilà un petit peu vers où on va. Deuxième effet après, parce qu'il faut pas être trop long, on va se prendre la TVA. Ouais. Ça c'est probable parce que c'est un gros sujet en Europe. Hein. Alors bon, il y a les Hollandais qui ont attaqué les Anglais. Ça revient un petit peu. Hein. Non, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Donc TNT, pour ne pas les nommer, qui ont attaqué Royal Mail en disant « Vous vendez votre courrier hors taxe et moi, je suis concurrent, je me prends 20% de TVA. » Ce n'est pas juste. Ils ont perdu pour l'instant. La Cour de justice européenne a rendu un jugement défavorable à ceux qui voulaient faire appliquer la TVA. Le problème, c'est qu'en France, la Poste voudrait bien l'appliquer, la TVA. Évidemment, j'ai une boîte, j'achète 5 milliards d'achats tous les ans, je paye de la TVA plein pot sur ces achats, ça fait 1 milliard, et quand je vends une partie de mes produits hors taxe, et je récupère pas la TVA sur mes ventes. Donc je perds en gros 500 millions d'euros par an. Et la Poste a ce raisonnement magnifique, c'est que ça sera indolore, parce que les grands clients, les grands émetteurs à qui on va vendre du courrier TTC, ils récupèrent la TVA, eux. Donc, qui est-ce qui va se faire tuer?
Les particuliers. Les
mêmes, et voilà. Donc, le timbre à 75 centimes d'euros, bah, c'est quand même pour après-demain, moi, je vous le dis.
Mais ils pourront aller au restaurant et elle a baissé la TVA.
Oui. Bien sûr. Absolument. Alors, donc, on va sur une Poste donc, qui sera de plus en plus chère, moins présente, et qui va s'occuper surtout des gens qui ont du pognon.
Voilà.
C'est un peu ça, si je résume grossièrement.
Une Poste à plusieurs vitesses.
Ce qui a commencé dans les guichets, puisqu'on voit que maintenant il y a un guichet alors pour les pauvres, hein,
oui,
ceux qui veulent faire les opérations pauvres.
Et guichet pro.
Les guichets le pro, qui sont bien garnis avec des gens derrière.
Mais il y a des télés pour attendre.
C'est bien. Ouais. Et t'as trois.
Avec où
ils passent de la
Bertrand.
Pub. Oui, super. Et t'as trois guichets à la con où les gens sont, les guichetiers sont mobilisés pour vendre des merdes inutiles dont personne n'a besoin. Parce que maintenant les bureaux de poste ressemblent
de plus
en plus.
Attends, je suis désolé. L'autre jour, j'ai acheté un album Martine à la ferme. 10 euros avec des images de la ferme. Ah, moi, je suis désolé. Je me suis régalé.
Ça valait le coup d'aller à la Poste. Donc, la Poste qui vend des DVD, des conneries, des babioles dont tout le monde se fout, hein, qui trouveront les mêmes au supermarché d'à côté ou dans un magasin de merde d'à côté. Voilà, donc la Poste se transforme un peu en espèce de supérette aussi à son tour.
Mais c'est cette enseigne qui est une entreprise à part entière au sein de la Poste. Qui a du chiffre à faire, hein, en fait, et qui est détaché de la mission de service public,
tout
simplement.
On ne sait pas comment ça va évoluer, mais on a dit tout à l'heure, en gros, la banque postale a dit, moi, mon réseau, c'est 2 700-3 000 succursales. Et donc, les projets actuels sur les bureaux, c'est dire, on ne va pas passer brutalement d'environ 9 000 à 2 700, t'imagines. En mois de mars, on ouvre...
Ce sera une maladie longue et douloureuse.
Il n'y a rien. Il se passe rien. À propos, on ferme les trois quarts des bureaux, les deux tiers des bureaux. Donc, voilà.
Donc, ça va se voir.
Ils disent aujourd'hui, eh ben, on va avoir deux types de bureaux. On va avoir les bureaux réellement financiers qui seront ceux qui sont utiles à la banque postale, et les autres sont des bureaux où on vend de la papeterie, qui seront encore ce que la Poste est tenue de garder comme bureau de proximité dans le cadre de la cohésion sociale, de l'aménagement du territoire, blabla, avec des crayons.
De la lumière et un humain.
Voilà.
Voilà. Voilà. Donc d'accord. Après, comment ce schéma-là va évoluer, on verra. Mais voilà. Après, sur l'affaire courrier, il y a quand même, dès le départ, un machin quand même bizarre. On dit... l'activité courrier est une activité qui, structurellement, est en déclin. On nous avait fait déjà le plan, moi qui suis très vieux, avec, justement, après les années 70, on a installé le téléphone dans toutes les dans la plupart des foyers. Ils sont équipés, donc le téléphone va concurrencer le courrier, et donc il va y avoir une baisse continue du courrier. Ce qui s'est pas réalisé. Il y a eu une mutation du courrier. Une modification des volumes de courriers, de la nature des courriers, mais en gros, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la communication gérait de la communication. Et pas parce que tu payes moins cher ton timbre et que tu vas écrire à ton voisin de palier plutôt que d'aller lui dire bonjour.
Si tu l'aimes pas, tu lui écris en temps.
Ouais, mais alors
tu recommandes. C'est même un missile.
Avec accusé.
Et donc, on nous vend que là, il faut développer une activité concurrentielle pour permettre à des concurrents potentiels de pouvoir s'installer sur une activité qui est en déclin. Structurellement, parce qu'on refait le même truc avec Internet, c'est le courrier, il est en chute libre, on ne pourra rien y faire, il va continuer de chuter. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plus de gens. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas entrepreneur privé, mais en gros, je n'aurais pas envie de me foutre sur une activité dont on me dit qu'elle est en déclin.
D'ailleurs, plus personne n'écoute la radio depuis que la télé existe, c'est bien connu, n'est-ce pas? C'était prévu aussi, hein, mais ça ne s'est pas passé comme ça.
Ça ne s'est pas passé comme ça.
Voilà, alors avant, je voulais quand même couper, je pense qu'on se dirige vers la fin de l'émission, je ne sais pas, qu'il y ait des questions qu'on n'ait pas abordées.
On va parler,
on va parler de l'Europe après
la musique.
En attendant, on va faire une
juste
pause
avant,
musicale.
Pour éviter toute critique, justement, si on va nous appeler, etc. Je rappelle que pendant le salon des mères, des mères, pas les mamans, hein, les mères de... Voilà, le salon des mères, je m'en fous de la banque postale. Durant une heure en direct du salon, le groupe La Poste a eu la parole sur les ondes de Radio Chrétienne en France sur le thème des services à la personne. Voilà, donc il y avait Pascal Portier, directeur du marché des services à la personne du groupe. Et là, blablabla. Il y avait donc Marianne Chauvet, responsable activité, titre à la direction des entreprises, des collectivités, des associations, blablabla. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas invité
absolument,
le cadre, parce qu'il fallait rétablir évidemment
un petit
l'équilibre.
Voilà, mais de toute façon, ils vont utiliser les confessionnaux, ils ont qu'à faire un petit trou, et ça fera un guichet.
Voilà, c'est que Dieu se le trou.
Voilà, c'est ça, voilà.
Dieu se passe de la poste
ça,
pour communiquer.
Et
hein.
Comme ça, dans les villages, il y aura l'épicerie, il y aura la poste et l'église dans le même endroit. Et les chiottes dans la même occasion. Allez,
musique 01 43 71 89 40.
Un peu de rock'n'roll.
Ah.
Yeah.
No Future, ça peut être aussi le sous-titre du,
de l'émission de ce soir.
L'émission de ce soir.
On va continuer en parlant de l'Europe, puisque paraît-il, c'est de là que tout vient. Le même mal, si là. C'est nos ministres
elle vient de là,
qui,
elle vient
qui
du
votent.
il va finir à la pente du Carmel. Lui, hein.
On l'embauche demain matin.
Alors, on se reprend, on parle de l'Europe.
Donc,
je rappelle que c'est un sujet grave quand même.
Hein. Bah oui. Oui, ça
ne nous empêche pas de rire des sujets graves aussi.
Donc l'Europe, paraît-il, disais-je, c'est de là que ça vient. Même si c'est nos ministres quand même qui votent en Europe. Hein, donc,
oui,
ils devraient quand même être au courant
Dominique Bussereau
de ce qu'ils font
Nobelli,
après, dernière. En général.
Voilà.
Je crois qu'ils signent sans lire. Concerne...
Hein. Oui, bon, ils savent lire. Non. Ils savent compter, mais ils ne savent pas lire. Donc, votre position, justement, vis-à-vis du discours aujourd'hui clairement entendu, clairement relayé par les médias sur « c'est l'Europe », et est-ce que vous pouvez vous défendre vis-à-vis de ce discours-là ?
Je crois que la défense, elle se fait toute seule. Hein. En plus, c'est un vrai discours cohérent. Il est basé sur quelque chose. À savoir, il faut aller se promener quand même. Il faut aller sur les sites de la Commission européenne. Il faut aller sur le site du président Barroso. Il faut aller regarder un peu ce qui se raconte. Ou à longueur de page, on nous raconte que les services publics sont historiquement inefficients en Europe, qu'il faut mettre un coup de pied là-dedans, que c'est tous des bons à rien et que le service rendu est merdique. Mes mots sont à peine...
C'est vraiment
restitution de ce qui se dit. Donc là-dessus, on nous met en face une idée fabuleuse selon laquelle la libre concurrence va arranger tout le monde, améliorer la qualité de service, premièrement, et deuxièmement... faire baisser les prix en offrant plus de choix. Bon,
j'attends de voir ça avec beaucoup d'impatience.
Désolé,
comme dans la téléphonie.
Je suis pas là ce soir pour enfoncer des portes ouvertes, mais tu l'as dit toi-même. Va choisir. Avec ma copine là, on a choisi l'autre jour. Elle a déménagé son forfait internet. C'était assez grandiose. Quoi,
oui, bah, ils ont été condamnés pour entente.
Non, mais moi je venais de nulle part.
Etc.,
je m'étais pas penché là-dessus. On a regardé les numéricables, Alice, Orange et machin et tout. Et tu peux pas choisir un truc parce qu'il est plus intéressant que l'autre, parce que tu ne sais pas. Bon, ensuite, je vous parle pas de la qualité de service après tout, la même chose sur ça. Bon, on veut transposer ce modèle un petit peu sur le courrier en disant clairement que plus de concurrence va donner le choix, va donner la baisse des prix, les trucs comme ça et tout.
Non,
et
c'est le discours classique des libéraux.
Attends,
ils nous ont fait ça pour l'eau, ils nous ont fait ça pour le téléphone. Tout ce qui a été privatisé, ça va baisser. C'était toujours l'inverse.
Sauf qu'on a un vrai laboratoire grandeur réelle avec l'Europe, parce que l'Europe, l'application des directives européennes est libre. Ça veut dire qu'il y a des pays qui ont pu entièrement libéraliser, d'autres non. Donc on a une vraie étude en grandeur nature possible, je dis bien possible, parce qu'elle n'a jamais été faite correctement par la Commission européenne, elle commandite des cabinets de consultants qui font des trucs à la paluche. Il n'y a pas un seul endroit, par exemple, dans toutes les études européennes, où il y a une véritable... agrégation de l'emploi postal. C'est-à-dire, premièrement, combien d'emplois détruits depuis 10 ans ? Deuxièmement, combien d'emplois créés ? Et troisièmement, quelle qualité d'emploi créé ? Donc, on l'a vu très clairement. Moi, je vous les donne les comptes parce que j'ai fait un truc. Alors, je sais pas combien sont payés les consultants de la Commission européenne. Je me suis simplement fadé les comptes des opérateurs postaux depuis 7 ou 8 ans. Alors, la poste allemande, la poste hollandaise. Faut chercher un peu. Et on voit combien il y a de personnes, d'emplois supprimés, etc. Alors, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. On dépasse les 350 000 suppression d'emplois.
Sur l'Europe.
D'accord. Deuxième chose, les changements de statut. Nous, en France, alors j'ose dire qu'on est relativement favorisés parce que, par exemple, en Autriche, les fonctionnaires, on les a transformés d'un coup de baguette magique en salariés.
Ouais.
Bon, voilà. Ça, c'est encore une autre histoire. Et puis, après, les modèles économiques qu'on nous vante à
et
fond.
Et la Belgique.
La Belgique, notre département, s'il te plaît, pas ce soir. Non, la Belgique, ils ont toujours des fonctionnaires, bien sûr. Ils ont une partie Attends, je te dis une bêtise. Je crois que les... Non, ils leur ont changé leur statut aussi. Eux aussi. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont confrontés. Alors, avec quand même une docilité absolument extraordinaire. Alors, je suis désolé de casser un peu de sucre sur mes camarades syndicalistes européens. Mais une docilité hallucinante de la Confédération européenne des syndicats, des syndicats postaux, qui sont quand même aux premières loges pour savoir ce qui se passe, qui sont aux premières loges pour signer les accords de merde. Moi, en 2000, on a été invité... C'est pas la Poste, hein. C'est l'administrateur Galipides. avec les autres gens du conseil d'administration, on a été invité par la Poste allemande et ils nous montraient très fièrement. Donc, alors, il y a dans le bureau des RH du patron allemand, il y a une espèce de panneau avec une date en 2043, un petit point lumineux et tout magnifique. C'est la date du départ de son dernier fonctionnaire à la retraite. Ouais,
il se touche dessus.
Le mur est dégueulasse. Ouais. Donc, vraiment des pollutions nocturnes. M'entraînez pas sur ce terrain.
Non, on va essayer.
Donc, et dans le même temps, ils nous annonçaient un truc génial en 2000. Ils venaient de signer un accord avec tous les syndicats de Deutsche Post. Verdi en première place, hein, le grand Verdi allemand, là.
Le
qui
pauvre.
Fait aussi bander plein de monde. Et où ils disaient, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tous les salariés et les fonctionnaires de la Poste allemande ont fait une photographie. Tous les nouveaux employés, il y aura 25% de votre salaire, c'est-à-dire c'est pas une part variable supplémentaire, 25% compris dans votre salaire qui seront indexés sur les résultats de la boîte. Ça veut dire que c'est une espèce d'accord d'intéressement négatif.
C'est beau comme du mink.
Et donc ça a été signé par les syndicats. Deuxième exemple sur la Hollande, très vite pendant que j'y suis, les syndicats hollandais, leur patron leur fait une vie pas possible, hein, c'est quand même un dur. Il leur disait il y a 3 ans, on gèle les salaires pendant 4 ans parce que là ça va être très dur, la concurrence, les machins, et puis je vous promets que je supprime pas un emploi. Et là il arrive début de l'année dernière, et là encore en ce moment, allez voir sur le site de TNT, là, la Poste hollandaise, où ils font une lettre ouverte aux employés en disant on comprend pas que vous vouliez pas signer nos accords, pourtant on veut sauver la boîte. Et donc là ils disent finalement ça va pas suffire de geler les salaires, faut qu'on vire 5000 gugus.
Vous avez bien eu.
Donc Et il y a une docilité, un accompagnement fabuleux. Donc ça, c'est simplement l'aspect emploi, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, sur les points de contact, les fermetures, on en a parlé tout à l'heure, la qualité de service, c'est naze, les tarifs postaux, c'est l'explosion. Alors tout à l'heure, tu parlais de la Poste allemande un petit peu, qui s'est financée à mort, parce qu'elle avait un prix du timbre très cher, etc., etc. La Poste suédoise, quelques mois après la transformation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le prix, alors tout le monde dit, ouais, il a pris 65% le prix du timbre. Ça paraît énorme. Mais ça se comprend. Vous avez les augmentations du prix du timbre et la TVA. Ils ont appliqué la TVA en Suède. Et là, et forcément, c'est la collectivité qui a payé le prix fort. Donc on a vraiment une ribambelle d'exemples complètement pourris. Et si je veux finir là-dessus, on n'est pas sur un marché en expansion. Si je veux la jouer business, le marché des télécoms, marché internet, c'est en expansion. Il y a de la marge, il y a peut-être de la place pour tout le monde. Et encore, faut voir comment il y a quand même des bras cassés, voir France Télécom, ils sont bien ratés. Là, c'est tout le contraire. On est vraiment sur un marché complètement en attrition et sur lequel il n'y a pas d'imagination, il n'y a rien, quoi. On est vraiment, c'est miséreux. Quoi.
C'est encore l'idéologie derrière. Hein, toujours, c'est cassé.
Je vais manger un gâteau au chocolat. J'arrête de parler
comme ça. Gérard, vous l'abordez un sujet.
Non, je complète un peu sur la Poste belge. Il y a un certain nombre de postiers actuellement qui sont complètement sur des contrats temps partiels, voire qui sont sur des régimes assimilables à l'auto-entrepreneur. Bizarrement, pendant longtemps, la référence en matière de privatisation était la Grande-Bretagne. Ça ne l'est plus, c'est l'Allemagne. On en parle un peu moins parce que il me semble que l'équivalent de la banque postale allemande elle va pas très très bien du tout. Je sais pas si
DHL aussi ils sont ramassés aux États-Unis. Grandiose.
Voilà. Et en Grande-Bretagne. Là, ils ont été confrontés, bon, alors, pour une fois qu'il y a une réaction syndicale un peu à la hauteur, signalons-le, à une menace de grève générale qui emmerdait beaucoup le gouvernement.
Menace de privatisation qui a été bloquée par...
Comme quoi c'est faisable, quand il y a de la mobilisation.
Oui, parce que là, le syndicat des postiers britanniques a dit, bon ben nous, on pousse la musette, on arrête tout, et tu vas te la péter, ta grève générale, tout gouvernement travailliste que tu sois.
Donc, et c'est, là, la droite a bien aidé, là.
Voilà.
Nous, on a Estrosi pour nous aider, là, dans la droite.
Et après, sur un autre truc, il faut regarder le jeu de domino, si vous voulez. On peut penser, nous on n'est pas, notamment à PTT, on n'est pas de ceux qui pensent qu'on est sur un statu quo, que les choses n'évoluent pas. Donc on se dit, le courrier, il a évolué, il va continuer d'évoluer. Les habitudes des citoyens, elles vont continuer d'évoluer. Donc les services, ils ont réussi à s'adapter. La Poste d'aujourd'hui, c'est plus la Poste de Louis XI. Mmh. Les télécoms d'aujourd'hui, c'est pas les télécoms de 1970. Mmh. Voilà. Et donc, cette évolution, un des trucs qu'on oublie toujours de dire, c'est que les services publics ont toujours été adaptables et ont toujours réussi un peu à s'adapter de gros de force, mais ont réussi. Le prix social en contrepartie, c'était effectivement de dire aux gens, vous avez des garanties statutaires, vous êtes indépendant des pouvoirs politiques, vous devez plus à une mission qu'à une entreprise. Et on vous donne des garanties sur le travail, sur l'évolution de carrière, sur l'emploi, etc.
Enfin, c'est sûr que les fonctionnaires, pour la plupart, qui travaillent sous ce statut-là, c'est pas pour l'argent. Il faut bien rappeler qu'un fonctionnaire en fin de carrière, il gagne pas lourd hein, s'il a pas monté beaucoup de grades.
Ça dépend.
Je parle pas des hauts fonctionnaires. Hein, je parle bien des fonctionnaires de la base, qui sont la majoritaire, hein, il me semble, dans la fonction publique.
On parle bien de la même chose. Voilà. Après, on peut dire aussi, c'est des gens sans ambition, ce qui est vrai. En tout cas, ils n'ont pas celle-là.
Enfin, maintenant, ceux qui sont au Pôle emploi qui avaient de l'ambition, ils se la ramènent moins.
Non, mais y compris, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Soit on veut se la péter en bagnole, soit on veut dire, moi j'ai un boulot, au moins il est utile, je sais à quoi il sert. Je
soit
sais
tu
combien
veux une Rolex,
je
soit t'en veux pas.
Voilà, moi j'ai une Lippe.
Jolie.
Elle est belle d'ailleurs.
Oui, elle est très belle.
Tu l'as payée cher?
Elle m'a été offerte. un client usagé. Non mais, sur l'affaire de la mise en concurrence, on va avoir des développements. On l'a eu sur le colis, on l'a eu sur la messagerie, on l'a eu sur les télécoms, on l'a eu sur tous les trucs. On va avoir plein de petits opérateurs qui vont essayer de se faire de la course en ville. Bon, on peut faire les paris assez vite. Si on regarde ce qui s'est déjà passé dans tous les secteurs, on refait le point 3 ans plus tard, ils sont tous morts. Aujourd'hui, le jeu qui se joue, c'est TNT hollandais qui essaye de prendre des parts sur Royal Mail anglais, sur DHL en Allemagne, sur la France joue les mêmes jeux.
Bien sûr.
Et les changements de statut fondamentalement, qu'on dit par exemple, revenons sur l'argument de départ. La Poste a besoin de 2,7 milliards. Premièrement, on peut les financer. Il suffirait de régler un certain nombre de trucs, mais bon.
Et pour quoi faire, surtout?
Attends. Et surtout, elle a besoin de 2,7 milliards. Pour quoi faire? Pour se moderniser? Non, pour faire des achats. Pour faire des achats en prédateur sur des parts de marché de Poste européenne en Grèce.
En Hollande?
En Hollande. En Allemagne, et en disant nos concurrents vont nous prendre des parts de marché, donc il faut qu'on joue à jeu concurrentiel. À une époque, ça fonctionnait à peu près, l'Union Postale Universelle. Qu'on dit, nous, les choses peuvent évoluer, c'est que l'Union Postale Universelle aussi pouvait évoluer. Notamment, nous, on est sur la ligne de, il faut des services publics, au moins à l'échelle européenne. Après, on peut définir l'Europe. Pour nous, elle ne s'arrête pas forcément à la frontière entre la Grèce et la Turquie. On parle de communication entre les peuples, entre les êtres, entre les gens. On peut être aussi avec les pays du Maghreb, etc. Mais dire, soit on a une logique de dire, il y a une coopération sur les moyens de communication, alors que ce soit la communication matérielle, transport, chemin de fer, etc. Que ce soit sur la communication courrier, téléphone, etc. Soit on est sur des logiques de coopération en se disant, c'est des pays qui ont des histoires différentes, qui ont des statuts différents, mais on peut mettre ses forces en commun et développer des services qui ne soient pas concurrentiels entre eux, mais complémentaires entre eux. Mais là encore, on retombe sur la question du départ.
Et en plus, ce qui existe...
Rentabilité ce qui pour existe enrichir avec... des actionnaires, faire du fric et se borrer.
Ce qui existe avec le rail.
Ouais.
Et qui est en train d'être remis en cause.
Et qui est remis en cause, évidemment. Bah, évidemment, mauvais exemple.
Et ou soit, le truc, c'est de dire la rentabilité, c'est des droits inaliénables qui sont donnés à des gens, et on considère que ces droits doivent être de haut niveau et bien supérieurs. Par exemple, un autre constat, puisqu'on va peut-être arriver vers la fin, un autre constat qu'on fait, nous, moi, si le service public, c'était mieux avant. Ben non, c'était pas bien. C'était pas bien. Moi, je me rappelle, je rentrais à la Poste, c'était il y a longtemps, une administration d'État, et j'ai fait grève relativement vite. Donc c'était pas bien. Ou alors c'est que j'aime beaucoup faire la grève, ce qui est
ça,
faux non plus.
C'est bien possible aussi. Hein,
mais par exemple, les besoins des usagers, quand est-ce qu'ils ont été pris en compte? Quand est-ce qu'ils ont été réellement associés à la définition des besoins de ce qu'ils voulaient de...
À la fin de la guerre.
Voilà.
Ben ouais.
Voilà.
1946.
Un moment où c'est le reste. Voilà, un moment où les choses étaient entièrement ruinées, où l'économie était exsangue, où il n'y avait pas de fric à se faire.
Et à un moment où les patrons étaient en fuite parce qu'ils avaient
tous collaboré comme des enfoirés. Il faut le rappeler.
Ce n'est pas vrai, ils n'étaient pas tous en fuite. Il y en avait un certain nombre qui étaient en prison, même s'ils ne sont pas restés longtemps. Monsieur Berlier, par exemple.
Donc, on peut essayer de se passer du passage guerre et aller directement à les mettre en fuite ou à les emprisonner.
Non, mais... Donc, on rejoint sur les logiques de fond sur ces affaires-là. Coopération pour développer des nouvelles techniques, coopération pour développer des meilleurs services, coopération pour, y compris, on peut aller sous le terrain de la démocratisation. Alors là, je ne parle pas de l'autogestion, je ne parle pas de changement de système. Je reste dans un système complètement capitaliste. Donc, y compris, on peut faire des critiques à tout ça. Mais même dans ce cadre-là, il y a des possibilités de démocratisation. Bien évidemment, ça n'a jamais été mis en œuvre. Donc, je pense qu'il y a une logique entre la démocratie et le capitalisme. Il y a quelque part une antinomie. Mais
quelque part,
assez profondément. Donc nous, c'est pas l'idée ni du statu quo, ni de dire le service public c'était bien avant. Ce qu'on est en train de simplement de dire, c'est que la logique actuelle,
Elle aggrave la situation. Enfin,
à mon avis, après, je dirais presque qu'elle a un avantage, quoi.
Parce que moi, finalement, et puis une fois qu'on sera dans le mur.
Non, parce que je pense, ça appartient après aux organisations syndicales. On a deux types d'analyses à tirer aujourd'hui. Alors, une troisième que je balaye tout de suite.
Alors, n'en parle pas.
C'est pas perdu. On pourra, quand la loi sera passée, on sera mieux armé pour se battre.
Tu parles. Bon. Un jour, mon prince viendra.
Il y en a un qui a dit ça ?
Il y en a qui nous le disent.
Comment tu le dire ? Comment va Chérec ?
C'est pas lui qui le dit, vous affolez pas. Donc, mais bon, passons. L'autre truc, c'est de dire, ce qui est en partie vrai, les syndicats n'ont pas voulu réellement se battre, ou il n'y avait pas une réelle unité, ou certains étaient debout sur les freins, ou on n'a pas su faire, ou les gens sont cons, plein de raisons, donc faudra.
C'est les autres.
C'est toujours la faute.
C'est eux.
Moi, je constate une chose, c'est que. Un autre élément d'analyse, c'est de dire pour la plupart des postiers, comment ça se fait que la riposte était aussi
molle,
peu combative.
Aussi peu combative, parce qu'il y a eu de la combativité, mais pourquoi pas aussi forte, alors qu'y compris, et pouvait s'appuyer sur la population, s'est manifestée,
ce qui était de
légitimité. L'affaire de la votation, c'était pas pour avoir un référendum sur le fond, ça, certains, notamment dans les forces politiques, pouvaient. D'ailleurs, ils sont beaucoup mobilisés à ce moment-là, peu avant et très peu après. Mais l'idée, c'était de dire si les postiers se battent, il faut qu'ils sentent que la population les soutient. Les postiers n'ont pas forcément... d'une part, parce que tout ce qu'on a dit tout à l'heure est à l'œuvre déjà depuis longtemps. Qu'ils le mangent actuellement. Et d'autre part, un truc qui est quand même, moi je pense, et là c'est pas une affaire à la radio, c'est des trucs qu'il faudra qu'on analyse en profondeur. Les luttes n'ont jamais cessé. Pendant le temps où on appelait les gens à se battre contre la privatisation et qu'ils ne se battaient pas, ils étaient en grève sur ce qui leur tombait dans la gueule dans leurs établissements. Donc quelque part, me dit, moi je pense qu'une page se tourne. Je pense par contre que la réalité de la lutte des classes, elle est là et qu'ils vont se la manger très très grave. Et je vais la manger avec eux parce que je suis dans le même bateau et du même côté où tombent les coups. Que la brutalité qui s'exerce depuis quelques années à l'encontre du personnel, c'est rien par rapport à ce qui va arriver maintenant. Parce que maintenant, on va leur dire, il va falloir. On a des actionnaires, en plus, bon, des publics. Alors c'est encore les pires, les actionnaires publics, il va falloir... On va essayer de les écraser avec ça. Et toutes les réorganisations qui sont actuellement à l'œuvre et dont les gens ont à souffrir, alors les usagers d'une part, mais à commencer par les salariés qu'ils subissent tous les jours, vont aller en s'accélérant, en étant de plus en plus brutales, de plus en plus fortes. Et on est déjà rentré dans cette phase-là.
Et on a l'exemple de France Télécom.
où effectivement la politique, enfin sociale entre guillemets, la politique managériale, elle est claire et nette. C'est on élimine ceux qui gênent et on les pousse aux pires extrémités.
Oui, non, mais avec des différences.
Il y en aura, mais
des différences.
C'est-à-dire que le cynisme est là, quoi.
C'est qu'y compris les ressorts seront pas forcément les mêmes. France Télécom, moi, j'ai bien connu et je connais toujours des gens de France Télécom. C'est des gens du métier avec une technicité, par exemple. Des gens qui étaient techniciens d'intervention, qui avaient une fierté, une conscience d'avoir un savoir-faire, un métier et tout. Et on, ils se retrouvent avec un casque sur les oreilles et pas dans une radio.
Et un, attends, et un roquet sur le dos qui les emmerde toutes les 2 minutes.
Et avec,
les
un, prompteur,
pour pisser, ouais,
et avec un prompteur qui leur dit ce qu'ils doivent dire. Donc le postier, le facteur, c'est un mec qui connaît son boulot, c'est une fille qui connaît son boulot, qui est à l'aise, qui a une certaine autonomie. Cette autonomie, on est en train de lui bouffer aussi.
Mais non, mais il va l'avoir. Attends, les mecs, les gens qui relèvent les boîtes à Paris en ce moment, on leur met un géoroutage, c'est-à-dire un GPS. Si tu mets plus de 10 minutes entre deux boîtes, on va te téléphoner. On va dire, qu'est-ce que tu fous? Bah, j'étais en train de donner un renseignement à une dame dans la rue.
Ah, bah, combien tu lui as pris?
Maintenant, les facteurs, faut envoyer chier les gens. Hein,
mais ils n'avaient pas tout à fait le même rapport au boulot.
Ils ont qu'à aller demander au mec du PS des renseignements, attends.
Ils n'avaient pas tout à fait le même rapport au boulot, sauf peut-être au niveau des services financiers ou des guichetiers. Mais ailleurs, le rapport au boulot n'était pas sur une technicité.
Oui.
Elle était plus sur. Alors là, ça peut être commun à plein d'entreprises, hein, du privé, du public ou autre. C'était le savoir-faire plutôt que le savoir-être. Et aujourd'hui, il faut savoir être, il ne faut pas savoir faire. Et ça, ça va avoir des effets redoutables. Mais en même temps, je vois que les luttes qui se développent, par exemple, à la Poste aujourd'hui, c'est sur quoi? On a des gens qui travaillent, qui font des heures supplémentaires, qui ne sont pas payés. Et s'ils disent « je fais des heures supplémentaires », ils se font sanctionner parce qu'ils n'ont pas fait le boulot dans le temps qu'il était imparti, ce temps n'étant pas comptabilisé, mais étant forfaitisé. Donc on a toute une série de luttes qui sont en train de se développer là-dessus et qui vont ramener sur d'autres aspects. Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans la période, c'est que ces luttes n'ont jamais cessé dans toute l'année qui vient de se passer. Et je ne suis pas sur opposer les choses, mais il ne faudrait pas penser qu'aujourd'hui, les luttes sur la privatisation ne sont pas développées. Ça veut dire, c'est ce que disait tout à l'heure Nicolas sur la passivité avec laquelle les choses se font. Je ne suis pas sûr qu'il y ait cette passivité-là.
Bah, moi, je voudrais bien te croire. Et vraiment, c'est de l'espoir, là, parce que moi, j'arrive pas, franchement, la analyser en profondeur pourquoi les postiers font grève, pourquoi les postiers font pas grève, pourquoi c'est les mêmes, pourquoi c'est pas les mêmes et tout. C'est extrêmement complexe. Après, on est une boîte très très complexe. On est un établissement public qui est un peu atypique, hein, avec une population moitié fonctionnaire, moitié salarié. Je crois que ça nous joue des tours, parce que même si on a fait des efforts, même si on a fait le maximum. Joindre les luttes, joindre les revendications, etc., c'est pas du tout évident. Il y a vraiment et ça,
puis tout est fait pour vous en empêcher.
La boîte en joue assez magnifiquement. Hein. Donc ça c'est un véritable handicap. France Télécom, si on revient sur eux, il y a une attrition du nombre de fonctionnaires et c'est marre, quoi. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions. C'est deux choses extrêmement différentes. Maintenant, j'ose et j'espère vraiment qu'on va pas en venir à des drames comme il peut y avoir eu à France Télécom. C'est évident qu'il y a une souffrance au travail à la Poste qui est extrêmement intense, mais qui est différente, hein, quand même.
Donc, tout le monde doit se mobiliser, hein, comme pour tout ce qui peut arriver, et puis se préparer peut-être.
Préparez-vous à payer.
Préparez-vous ou à payer, voilà.
Ben, si vous êtes prêt à payer, qui fout la pêche.
Voilà. Si vous voulez payer, ne vous mobilisez pas. Continuez à baisser les chines, à courber les chines.
Le timbre à 75 centimes, c'est pour demain.
Moi, je le vois à 1 euro, c'est plus simple, hein, pour les comptes.
Après demain.
Non, il va y avoir des luttes certainement prochainement.
Il y a quoi à l'avenir,
franchement, il n'y a pas grand-chose. D'après ce que j'ai compris, enfin, il y a des infos qui sont sorties aujourd'hui où, les députés de droite ne veulent pas être là, craignent de ne pas être très présents le 23 décembre. Or, comme il va être demandé un vote solennel, il faut être là en personne. Or, les forfaits de ski, ça commence là. Hein,
quand
les mecs ne vont pas pouvoir être trop là.
Qu'est-ce qu'ils vont faire à Gstaad?
Attends, y a Roman.
Dire
y a
bonjour.
Il y a Jojo et Roman. Et donc,
peut-être que Johnny sera rentré.
Ils veulent pas prendre trop de risques. Donc, le vote final aurait lieu le 12 janvier, donc l'année prochaine, avec, alors ça, c'est une info qui est sortie dans un grand journal de l'après-midi aujourd'hui, qui disait que le 1er mars, il y aurait vraiment le changement de statut de la Poste. Après, il peut y avoir une foultitude de raisons. Stratégiquement, politiquement et je vais dire médiatiquement, ça va être une vraie merde parce que je reviens encore une fois sur ce chiffrage de la Poste. Ils vont nous la chiffrer à un chiffre vraiment pourri. Hein. Ça va valoir des cacahuètes. Mmh. Et donc là va vraiment apparaître dans toute sa splendeur la fumisterie du truc. Quoi. Mmh.
Donc bon, il y aura certainement des actions, j'espère. Enfin, pas des journées, par contre. Mais
des actions gratuites.
Non, pas des actions à acheter. Mais peut-être, je sais pas, encore peut-être un référendum à nouveau.
Pourquoi pas prendre rendez-vous tous les 5, tous les 6, là, pour une émission après mars.
Voilà, par exemple.
Ouais, c'est vrai, peut-être. Qu'est-ce que c'est mars? C'est carnaval, non?
C'est après le carnaval.
C'est un peu après le carnaval.
C'est Pâques.
C'est Pâques.
Et ben les 6 cloches, on se retrouve.
Voilà, absolument, elles vont revenir.
On pourra essayer de on pourra faire le point.
Non, mais d'accord, c'est bon. Ouais. Moi, je reviens parce que c'était bon à manger.
Il y a plusieurs
On va remercier nos invités.
Donc, merci à Gérard Coste et à Nicolas Galakiles d'être venus. Et puis, merci à Blanchot, Régis, de ne pas être venu, mais il est usé.
Il va nous raconter le concert de Mylène Farmer.
Ok. Le pauvre.
Pourtant, il lui reste du gâteau.
On lui avait laissé une part. On la garde pour le mois de mars. Et ce sera un peu dur, mais bon. Bien, eh ben merci à nos auditeurs. Bon, on n'a pas ces personnes au téléphone, hein, pas eu de questions, donc. C'était complet, faut croire.
Il y a eu des réactions. Pas dire ça.
Donc c'était l'émission spéciale
de la
Pente du Carmel sur la privatisation de la Poste sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste 89.4 FM. Voilà. Donc on vous laisse avec la bande sans fin, c'est ça? Est-ce qu'il y a des messages, des communications?
Non, pas particulièrement. Non. On voulait un message quand même, c'est de prendre sa carte d'auditeur, bien sûr, aller au 145 rue Amelot, prendre ça, 20 euros pour l'instant. C'est le seul truc qui n'augmente pas. Hein.
Tant qu'il y a pas de TVA dessus.
Et la souscription.
Voilà. Et la souscription qui nous aide là vraiment à vivre, puisque on a quelque chose de constant. Voilà.
Donc, merci à Gérard, encore une fois.
Avant le passage de
merci à Nicolas.
Et bonne nuit tout le monde.